On a commencé en septembre dernier. Septembre dernier, on a commencé juste après à la rentrée, on a commencé le chapitre 35. Chapitre 35. Perek Lamedé. Et en passant, je me suis rendu compte qu'on a sauté le chapitre 34. Mais non. Il faudra qu'on le fasse. Ouais, on l'a sauté.
Comment on a pu sauter un chapitre?
On l'a sauté.
Arrête, c'est pas possible. Non, j'ai parti en verre, on t'a raconté des histoires et tu
Non, non, non. Quand j'ai fait les résumés là, je me suis rendu compte que, parce que j'écris les résumés surtout, on a sauté le chapitre 34. Donc bon, Bezrat Hachem, on le fera. On le fera quand on arrivera. Non, l'a sauté.
C'est
Mina Shamaïm. Dès qu'on arrivera au 53, Bezrat Hachem, on révisera.
Mais dis, je vais vérifier dans mon marquage.
Non, je suis sûr, à 100%.
Je suis pas Rolex, je te dis, mais j'ai quand même un safek.
Donc on a commencé le chapitre 35. En toutes les façons, le chapitre 35, c'est un nouveau sujet, ça c'est sûr. Chapitre 35, c'est un nouveau sujet. Ça va depuis 35 jusqu'à 40. Il y a 6 chapitres qui ont parlé dans le Tania du concept de l'action et de la Kavana. L'action et la Kavana. Qui passe en premier, l'action ou la Kavana? Ça nous a l'air très simple comme sujet. Mais il nous a fallu près de 6 mois pour développer ce sujet.
C'est 34, on va sauter.
Ouais, ah, là, je suis sûr.
Bon, c'est pas grave, c'est juste l'olivier.
Donc, on est arrivé au chapitre, on a commencé au chapitre 35. Donc, on va prendre tout de suite la première page. La page qui est donc intitulée 35-37, l'action sinon rien, première partie. Donc, ça c'est les trois premiers chapitres, 35, 36 et 37. On a développé le concept de l'action. On avait passé plusieurs mois à expliquer pourquoi l'action c'était très important.
Tu as raison. Hein.
Quand? Ouais, c'était.
Tu vois la marque ici. Est-ce que c'était les vacances?
Hein? Ouais, c'était les vacances, voilà.
Voilà, c'était 21 juillet. J'ai la marque ici. Et après, on se retrouve de septembre.
C'est ça qu'on a du mal.
Aïe.
Donc on a
le concept de l'action.
Comme j'ai titré, l'action sinon rien. Donc on a commencé dans le chapitre 35. Allez, messieurs, s'il vous plaît, un peu de concentration, parce qu'il y a un fil conducteur. Si on perd le fil conducteur, ce sera plus compliqué. Donc on a commencé en chapitre 35 à expliquer le concept de l'asoto. L'asoto, c'est un des mots sur lequel le Tania est basé. Kikarov elecha davar meod defichar vilofra l'asoto. Que c'est facile et c'est abordable de servir à Kadosh Baruch Hu l'asoto pour arriver dans l'action. Donc là, on a développé l'asoto, la force de la mitzvah. Pour expliquer la force de la mitzvah, on a d'abord posé une question. Il y a eu un développement. On a posé une question. On a dit, a priori, on sait que, donc je lis, le Yetzer Hara ne sera probablement jamais vaincu. À part si on est un tzadik, chez le Benoni, a priori, le Yetzer Hara ne sera jamais vaincu. Il est constamment à l'affût du coup suivant. Toujours, il prépare. Tu crois que tu l'as gagné, il est déjà en train de préparer le coup suivant. Donc, à quoi bon?
Tu as dit toujours le coup d'avance.
Donc, à quoi bon toute cette guerre? À quoi ça sert toute cette guerre? Ça, c'est la question qu'il a posée. A priori, la question n'a aucun rapport avec l'action. C'est dans la réponse qu'on va voir la force. Il a dit que la réponse est une réponse consolatrice. Ça veut dire que c'est pas vraiment une réponse. On va pas se redire pourquoi on doit travailler. Il n'y a pas de réponse. Dieu a décidé comme ça. Mais et on a quand même quelque chose qui va nous consoler. Quel élément va nous consoler? On va nous consoler en nous disant qu'il faut savoir que même si on a l'impression qu'on travaille en vain, mais les outils qu'on utilise, c'est des outils extraordinaires. Alors, c'est comme si vous avez un employé, d'accord, toute sa vie il travaille, il dit mais qu'est-ce que je fais? Je fais rien. On lui dit peut-être tu crois que tu fais rien, mais les outils que tu as en main, c'est du béton armé. Ah mais je fais rien. Les outils que tu as en main, c'est du béton armé. Alors c'est quoi ces outils-là? Donc, bien que non vaincu, le Yetzer Hara ne peut rien contre la force d'une mitzvah. C'est quoi la force d'une mitzvah? C'est là qu'on a commencé à expliquer. On a dit que l'homme est comparé à une bougie. L'homme est comparé à une bougie. Dans la bougie, on retrouve la lumière, l'huile et la mèche. On retrouve la lumière, l'huile et la mèche. Vous avez la lumière, d'accord, l'huile et la mèche.
C'est ça.
Donc, le Zohar sur Kohelet explique comme ça. Il dit comme ça. Il dit que c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la shrina. C'est quoi l'huile? L'huile, ce sont les mitzvot. Et la mèche, c'est le corps. Et le Zohar explique comme ça sur Kohelet. Il dit que le corps, pour que la shrina réside sur le corps, donc le corps, on a dit, c'est la mèche, on a besoin d'huile. S'il n'y a pas d'huile, qu'est-ce qui se passe? La mèche, elle brûle. S'il n'y a pas d'huile, la mèche, elle brûle. On est bien d'accord, non seulement qu'il n'y a pas de lumière, mais la mèche, elle va brûler. Donc, de la même manière, explique le Zohar, si la mèche manque d'huile, elle risque de brûler. Donc, le Zohar a dit, très important, pour qu'une personne ait la shrina qui réside sur lui, on est obligé de passer par les bonnes actions. Les bonnes actions, pas l'étude, les bonnes actions. Pourquoi les bonnes actions? Alors, le Zohar explique comme ça. Le seul moyen d'alimenter la mèche est par les mitzvot. On ne peut pas être simplement juif dans le cœur. Là, c'est là qu'on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Le Zohar nous dit, il y a quelqu'un qui va te dire, moi j'ai envie que la Shrina réside sur moi, mais j'ai pas besoin de faire les mitzvot. Moi je vais être juif dans le cœur. Je vais servir Dieu avec mon cœur. Qu'est-ce qu'il te dit le Zohar? Il te dit, tu marches comme ça, ta mèche elle va brûler. Ça marche pas comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Pourquoi? On a expliqué comme ça. Parce que la Shrina ne peut résider que dans ce qui est totalement annulé à Dieu. C'est un principe. Un principe qui est écrit dans la Gemara, que Dieu ne peut résider que dans ce qui est totalement annulé à lui. Le jeu, créé par la descente ici-bas, fait que l'annulation à Dieu de l'âme ne pourra jamais égaler une mitzvah qui représente sa volonté ultime. Ça veut dire comme ça. Le fait que le plus grand tzadik qui peut exister sur Terre, le fait qu'il est descendu ici-bas et qu'il est habillé dans un corps, il ne pourra jamais être annulé à Dieu à 100%, à moins qu'il arrive au niveau des tzadikim, comme on verra après dans le chapitre 38, que eux, les grands tzadikim, ça c'est hors-jeu. Bon, ça c'est hors-concours. Mais on parle des gens normaux ici, d'accord ? Les gens normaux, le fait qu'ils sont descendus en bas, ils pourront jamais être annulés à Dieu à 100%. Il y a toujours le jeu. Il y a toujours le moi qui existe. La seule manière, or la Shekhina, comment la Shekhina peut résider, il faut être annulé totalement à Dieu. Donc la seule manière de le faire, c'est Dieu te dit, je sais que toi, si tu vas le faire tout seul, tu vas pas réussir. Parce que toi, tu peux pas t'annuler à moi. La seule manière, c'est que tu vas suivre mon mode d'emploi. Tu vas suivre mon mode d'emploi. Moi, je te donne un mode d'emploi. Tu fais la mise à, tu écoutes ce que je te dis. Et si tu suis mon mode d'emploi, là, dans ce cas-là, quand tu suis mon mode d'emploi, c'est-à-dire tu t'annules à mon mode d'emploi, là, dans ce cas-là, la Shrina va résider sur toi. Donc de là, on a conclu un point très important, que l'importance d'une mitzvah ne tient pas dans le message qu'elle porte. On a souvent des gens qui vous disent, ok, c'est quoi la mitzvah? Il y a un concept dans une mitzvah, un pessah, il y a un concept dans ta mitzvah. Je vais faire le même concept sans la mitzvah. Qu'est-ce qu'on a appris? On ne te dit pas du tout. C'est vrai qu'il y a un concept dans la mitzvah. Bien sûr qu'il y a un concept. Il faut le chercher, le concept. Mais le but de la mitzvah, c'est pas pour le concept qui est derrière la mitzvah. Le but de la mitzvah, c'est le fait que quand je fais la mitzvah, je m'attache à Dieu parce que je m'annule à la volonté de Dieu. Retsono vechochmato. Je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est déjà le point très important que nous explique le Zohar. Le Zohar te dit au Benoni, il lui dit, tu dis, mais à quoi ça sert, Yetzarara, de toutes les façons, je vais jamais gagner. Il lui dit, sache que les outils que tu as en main, les mitzvot que tu as en main, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire? Parce que en faisant les mitzvot, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, toi tu avances mais tu ne comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En vérité, à ce moment-là, tu as la Shrina qui réside sur toi. Parce que tu es annulé à Kadosh Baruch Hu à 100%.
Je pose pas de questions.
Alors après, on a posé la question, on a dit, et la Torah dans tout ça? Pourquoi que les mitzvot? Pourquoi pas la Torah? La Torah, c'est pas de l'huile aussi? On a expliqué, donc juste en bas de la colonne de gauche, on dit que dans la Torah vont s'annuler à Dieu uniquement la parole et la pensée de l'homme qui seront occupés par sa Torah, par la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le concept? La pensée et la parole. Quand je vais étudier, il y a ma pensée et ma parole qui vont être employées pour faire la mitzvah d'Akadosh, qui vont être occupées pour faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a que eux qui vont être annulés. Alors que dans les mitzvot, l'âme vitale est entièrement déifiée. C'est ça le terme? C'est comme ça qu'on avait dit? C'est comme ça qu'on écrit?
Ouais.
Déifiée. C'est elle qui permet à l'âme divine de passer à l'action. Puisque sans l'âme vitale, si l'âme divine, elle était en haut, elle pouvait rien faire. Il fallait quelqu'un, quand elle est descendue dans le corps en bas, grâce à qui elle peut faire les mitzvot? Grâce à l'âme vitale. C'est quoi l'âme vitale? C'est l'âme qui fait que je peux parler, que je peux manger, que je peux boire, que je peux faire, que je peux réfléchir. Elle est neutre, celle-là. Celle-là, tu peux la mettre bon côté, mauvais côté. Cette âme vitale, au moment où je fais une mitzvah, c'est pas simplement, on avait expliqué que c'est pas simplement la pensée et la parole qui sont prises par la mitzvah, mais c'est cette âme vitale entière qui est déifiée. Donc conclusion, en accomplissant une mitzvah, l'âme vitale est déifiée, et à part ça, on a dit que le corps est enveloppé par la Shrina au moment de la mitzvah. Deux choses. Donc, je conclue ce qu'on a expliqué. Quand un juif accomplit une mitzvah, peu importe qu'il comprend, qu'il comprend pas, ça changera rien. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, son âme vitale, quand je dis son âme vitale, par exemple, ma main qui bouge maintenant, là. Si je suis en train de faire une mitzvah avec ma main, la main qui bouge, c'est l'âme vitale qui l'a fait bouger. Si je fais une mitzvah avec cette main, à ce moment-là, ce geste, ma main est déifiée. Premièrement. Deuxièmement, donc l'âme vitale, l'énergie est déifiée. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que le corps entier est enveloppé. Makif. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Makif,
on avait étudié ça juste avant Rosh Hashanah. Que le corps entier est enveloppé par la Shekhina au moment de la mitzvah. Bon, donc ça c'est déjà un premier point. Premier point dans lequel on a expliqué la soto, la force d'une mitzvah. La force d'une mitzvah n'est pas dans le concept de la mitzvah. La force d'une mitzvah est parce que je m'annule à Kadosh Baruch Hu. Et que grâce à ça, la Shrina peut résider sur moi. Si je ne suis pas annulé à Kadosh Baruch Hu, la Shrina ne peut pas résider sur moi. Donc la mitzvah, c'est un moyen d'être annulé à Kadosh Baruch Hu à 100%. peu importe que je comprends ou je comprends pas. Et on avait dit qu'au contraire, moins on comprend, mieux c'est.
Même si elle n'est pas l'ichma alors.
Même si elle n'est pas l'ichma.
Sur la partie mitzvah.
Sur la partie mitzvah.
C'est le mieux.
C'est le mieux. On a dit moins on comprend, mieux c'est.
Quand quelqu'un il arrive à comprendre, il faut qu'il il arrive à revenir en arrière.
Exactement. Parce que celui qui comprend, alors il a un facteur de, il a pas le facteur d'annulation à Kadosh Baruch Hu. Or on a expliqué que la beauté de la mitzvah, c'est pas le concept, ça c'est la Torah ça. La beauté de la mitzvah, c'est l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc moins tu comprends, mieux c'est. Suite, tout ça c'était l'introduction pour arriver au chapitre 36, qui est un grand chapitre.
C'est comme ça quand on fait des souhaits, quand on dit, on lui souhaite Torah ou Mitzvot ou Marsim Tovim.
Uh-huh.
On voit bien qu'il y a les deux concepts.
Ah, oui.
La partie, on va dire, de la parole et de la pensée, uh-huh. Et la partie de l'action.
Nahra.
Je trouve des choses complémentaires.
Pourquoi tu étudies alors?
Pourquoi on distingue Mitzvot et Marsim Tovim?
Bonne question.
Comment?
On va arriver à tout
pourquoi
ça.
Pourquoi on distingue
Marsim Tovim, ça peut ne pas être une Mitzvah. Je peux faire une bonne action qui ne soit pas un ordre divin.
On va expliquer aussi qu'il y a deux types de Mitzvot. On va arriver tout de suite à ça.
C'est un dérivé.
D'accord.
De Véhafta.
Je sais pas, enfin, il y a cette nuance aussi. En décrescendo, j'ai presque envie de dire. Le Torah, c'est tout ce qui est l'abstrait, ce être soumis à Dieu, comme on vient de dire, au niveau de la pensée et de la parole, ça c'est Torah. Les mitzvot, c'est être soumis à Dieu au niveau de l'action. Mais le Marasim Tovim, c'est pas Dieu, c'est toi qui, par ta propre volonté éventuellement, décide de faire quelque chose de bien, même sans être ordonné. Imaginons une femme qui étudie la Torah, elle n'a pas l'obligation. Ça s'appelle sûrement plus Marasim Tovim que mitzvot.
On va avoir une autre explication juste après.
Ouais.
On avait expliqué qu'il y a deux types de mitzvot. Ouais. Bon, ça va être dans le résumé, Bezrat Hashem. Donc tout ça, en vérité, c'est seulement une introduction au grand chapitre qui était le chapitre 36. Chapitre 36, chapitre clé du Tanya. On a expliqué que...
On réagit Shabbat, hein, quand on fait des cours, tu n'étais pas là, hein. Non. Allez, Shabbat, oui. Tu pas là Shabbat. Il a commencé à vouloir nous parler un peu, Dira Betartoni, mon lieu sorti, c'est fini. Hein.
Donc Dira Betartoni.
Il y avait quoi?
Pnimi. Voilà. Donc on a expliqué, tu auras tout ça dans le résumé. Donc, chapitre 36, Betartonim. Betartonim, c'est quoi le concept du chapitre 36? Dans le chapitre 36, on a expliqué que le but ultime est ici. D'accord? Le but ultime est ici. Le but ultime, c'est en bas. Très bien. Alors là, on a commencé à développer. D'abord, on a amené ce qu'il dit le Midrash. Midrash Tanhuma, dans cet endroit. D'accord? 7, le chiffre 7, il dit que Dieu a eu envie d'avoir une demeure dans le monde ici-bas. C'est clair. Il avait à Kadosh Baruch Hu, liotlot dira et barer Betartonim. Dieu a eu envie d'avoir une demeure ici-bas. Alors déjà, la Admor HaZaken te dit, avant même d'expliquer ce que le Midrash veut dire, qu'est-ce que ça veut dire envie, qu'est-ce que ça veut dire demeure, d'abord on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ici-bas. C'est où ici-bas? C'est où en bas? En bas c'est ici, physique.
Altitude.
Alors il dit, en bas, Dieu rayonne partout de manière égale. Donc ici-bas ne peut être ni géographique, ni métaphysique. Ni géographique, c'est-à-dire ni en haut, en bas, et ni métaphysique. Quand on dit métaphysique, par exemple, c'est-à-dire un sujet qui est plus profond qu'un autre. C'est métaphysique, c'est plus haut. Quand je dis je vais parler de quelque chose de plus haut, c'est pas plus haut physiquement, mais métaphysiquement c'est plus haut. Ça peut être, on parle ni de l'un ni de l'autre, puisque Kadosh Baruch Hu rayonne partout de manière égale. Donc quand on dit déjà que Dieu a voulu rayonner ici-bas pour Dieu, c'est déjà on a la mauvaise définition.
Voilà.
Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire ici-bas? C'est pas par rapport à Dieu, c'est par rapport à nous. En fait, Olam, le monde, est égal à Elem. Elem en hébreu qui veut dire voile. Le concept d'un monde Olam est voiler ce qui était visible plus haut. C'est ça Olam. Le concept d'un monde, c'est une dimension, ça veut dire que ce qui était visible dans le monde d'au-dessus, on va passer au monde d'en dessous, il sera invisible. Il sera voilé. Donc quand on dit ici-bas, que Dieu a voulu se dévoiler ici-bas, c'est pas ni géographique ni métaphysique, c'est pas ça. Quand on dit ici-bas, ça veut dire que Dieu est voilé le plus possible. D'ailleurs, les forces du mal se sentent indépendantes. Donc ça c'est déjà un premier point. Qu'est-ce que ça veut dire ici-bas? Ici-bas, ça veut dire l'endroit dans lequel le Dieu est le plus voilé. Et ça, c'est notre monde. C'est la définition de notre monde. Dans notre monde, Dieu est tellement voilé que, comme j'ai dit la semaine dernière, un juif, il peut vivre 80 ans sans savoir qu'il y a un juif. Des fois, Dieu, il est gentil, il envoie des rappels.
Ah, il fait des appels de phare.
Voilà.
Pourquoi il
demande? Mais il y a des gens qui n'ont pas d'appel.
Il y a un appel de phare, il y en a qui ne voient pas.
Ils peuvent naître et mourir sans savoir qu'il y a eu un Dieu.
Chemichement.
Pourquoi? Parce que en bas, le Olam à Tarton, le monde d'en bas, ça veut dire quoi en bas? C'est ni physique et ni métaphysique. C'est quoi le concept d'en bas? Ça veut dire que Dieu est voilé le plus possible. Et là, on arrive à la
question. De perception, c'est pas un niveau...
Dimension, c'est pas physique.
Pourquoi il a fait un Beth Amidash alors ou en demandant
une demeure
ici?
On arrive. Déjà.
Un résumé maintenant.
Après, on a posé la question. On a dit, dans ce cas-là, alors pourquoi Dieu créa tous ces mondes?
J'ai mis la question.
Bon, ça c'est la question. Donc la question qu'on a posée, c'est la grande question. Pourquoi Dieu a créé tous ces mondes? Quand j'ai tous ces mondes, parce qu'on a dit qu'il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas. Le Gan Eden aussi, par exemple, c'est un monde. Pourquoi Dieu a créé tous ces mondes? Alors, on a eu plusieurs hypothèses. Première hypothèse qu'on a eue, c'est qu'on a dit que... C'est que Dieu a créé tous ces mondes. En réalité, le but de tout ça, c'est pour les mondes d'en haut. C'est-à-dire, pourquoi un juif y travaille? Comme ça, un jour, Bezrat Hashem, après 120 ans, il ira au Gan Eden.
Pas pour ça, c'est du chemin.
Très bien. Seconde. Mais pourquoi Dieu a créé tout ça? On a dit peut-être, première hypothèse, on a dit que, quel est le but d'Akadosh Baruch Hu? Pas le but du juif. Le juif, il fait l'Ishma. Mais quel est le but de Dieu dans son business, dans son affaire? C'est quoi son business plan? Son business plan, Dieu, d'accord? Le business plan d'Akadosh Baruch Hu, on aurait pu penser, première hypothèse, c'est de dire que Dieu a créé pour le monde d'en haut. Oh, on a expliqué que ça peut pas être une bonne réponse. Cette hypothèse ne peut pas être acceptée. Pourquoi, On a dit que Olam est égal à Elem. Donc ça veut dire que même le monde le plus haut qui peut exister, par définition Olam, ça veut dire voile. D'accord? Olam, par définition, ça veut dire voile. Donc le monde le plus haut qui peut exister, même le Gan Eden, puisqu'il a déjà une définition de Olam, ça veut dire que Dieu sera moins présent après qu'il a créé ce monde qu'avant qu'il a créé ce monde. Donc c'est comme si quelqu'un il lance une affaire, alors il a 10 000 euros dans la poche, il lance une affaire pour récupérer 100 000 euros à la fin. Il dit, ça marche pas ton truc. Si tu lances une affaire, c'est pour gagner 15 000 à la fin, pour gagner 20 000, pour gagner 30 000. Tu lances pas une affaire à 10 000 pour gagner 5 000. Donc à quoi ça, donc ça on a expliqué, ça peut pas être une hypothèse, ça peut pas être une bonne réponse. On peut pas dire que Dieu a créé ce monde pour le Gan Eden. Il y a le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un but, c'est un stand-by, comme on expliquera après. Il y a tout ça. Mais le but n'est pas pour ça. Le but n'est pas pour ça. Ensuite, on a une deuxième hypothèse. Là, c'est pas une hypothèse qu'on invente, c'est une hypothèse qui est écrite dans le Midrash. Qui est une hypothèse très répandue. C'est quoi? Le Midrash dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde? C'est pour, vous suivez sur la feuille,
On suit, bien sûr.
D'accord. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde? C'est pour développer sa bonté, son chesed. Teva atov leetiv. Ça, c'est le Midrash qui dit. Ouais. On peut pas dire, c'est Midrash qui dit, donc c'est vrai. On a expliqué que certes, c'est une bonne explication, mais on doit chercher quelque chose de plus loin. Pourquoi? Parce que, on a posé une question très simple. On a dit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a envie de donner? On avait donné l'exemple, on avait dit, c'est comme si quelqu'un, il a une envie de donner de la tzedaka. Il a envie de donner de la tzedaka, mais il n'y a personne à qui donner de la tzedaka. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre pauvre quelqu'un. Il va s'arranger pour lui casser son affaire. Après, il dit, ah, maintenant t'es pauvre, je vais te donner de la tzedaka. A priori, c'est un peu la même chose que Dieu est en train de faire. Quand on dit que Dieu a envie de donner un chesed. C'est lui-même qui nous a créé comme ça. C'est lui-même qui nous a créé handicapés. Donc quand il vient, il te dit, bon, tu sais quoi, t'as un manque, mais je vais te donner. Mais c'est toi qui m'as créé avec ce manque. Ça ne veut pas dire que c'est faux cette raison-là, mais ça veut dire que il faut chercher une raison encore plus loin que ça.
Ah, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'il y a un développement, cette raison existe, on la garde, d'ailleurs on va la développer dans la suite, mais il y a une raison plus loin. Et là on a le Midrash 2. C'est quoi le Midrash 2? C'est la raison qu'on a dit, la raison ultime. Dieu a eu une envie. Inexplicable. C'est ça, quand on dit une envie, ça veut dire que c'est inexplicable. Peut-être un jour on comprendra.
Inexplicable à nous.
Pour l'instant on ne comprend pas. D'accord? Pour l'instant nous on ne comprend pas. Quelle envie il a eu? De voir le peuple juif travailler pour chasser l'obscurité qu'il a lui-même créée et la transformer en lumière. Par ça, Akadosh Baruch Hu crée sa demeure. C'est quoi le kiff? Alors on a dit, Itron Or.
Il traduit en tunisien à chaque fois.
Non, c'est pas en tunisien, il formule.
J'essaye de le vivre. Itron Or Minachosher.
C'est quoi son kiff?
Qu'est-ce qu'il dit le prof? Qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Il dit, Itron Aor Mina Chosher, la supériorité de la lumière, et quand la lumière vient de l'obscurité. La lumière provenant de l'obscurité est bien plus forte que celle qui n'a jamais été obscurcie. C'est-à-dire comme ça. Si vous avez une chambre qui n'a jamais été obscurcie, vous amenez de la lumière, il y a déjà le soleil, tu viens avec ta bougie, bon, ça fait rien de spécial. Même si tu amènes un grand spot, mais il y avait déjà de la lumière, c'est pas la fin du monde ce que tu as amené, on aurait pu se débrouiller sans toi. Mais quand tu viens dans un endroit où c'est obscur, d'accord? Et là, tu viens même avec une petite bougie. Itronaor minachosher. Là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'explique le Zohar sur ça? Il dit que l'essence de Dieu est révélée dans notre monde uniquement. Dans notre monde, comme c'est obscur, quand on révèle la lumière de notre monde, là, dit le Zohar, à ce moment-là, c'est pas la lumière de Dieu qu'on réveille. Parce que là, à ce moment-là, si c'est la lumière, dans ce cas-là, tu dis, Elem, c'est voilé, et bon, dans ce cas-là, en haut, ils sont plus forts que nous. C'est l'essence même de Dieu qu'on réveille. Ça, c'est... Le Midrash qui dit. Alors encore une fois, on avait passé plusieurs cours dessus, à essayer de comprendre, mais on avait expliqué qu'a priori, pour l'instant, en tout cas tant que ma chère n'est pas venue, Dieu ne veut pas qu'on comprenne. Dieu seulement a eu la gentillesse de nous dire quel est son but. Son but, tu dis voilà, je t'explique pas pourquoi c'est mon kiff. Juste je te dis, si tu fais ça, tu me feras kiffer. Je t'explique pas pourquoi je vais kiffer. Dieu te dit voilà, moi je te dis, tu vas faire des mitzvot. J'ai créé le mal, tu vas repousser le mal, et moi je vais devoir faire ça, et ça va être un plaisir pour moi. Maintenant, moi je t'explique pas pourquoi c'est un kiff, juste te dis, ça c'est le but. C'est déjà très gentil. Parce que Dieu aurait pu nous faire travailler sans nous dire quel est le but. Et bah tu travailles et tu te débrouilles. Là Dieu il nous a déjà dit, mon but, c'est de dire Rav et Tartanim. En quoi c'est un but, on sait pas. On va espérer que peut-être, si Dieu voudra bien, quand Machiach y viendra, il nous le dira. Amen. D'accord.
Donc il y a deux types de lumière alors.
Donc on a compris quelque chose de très très fort. On a compris qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde ici-bas.
Oui.
Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde ici-bas plus que Gan Eden. C'est ça ce qu'on vient de dire. On a dit le Gan Eden, les mondes d'en haut, c'est Elem, c'est voilé. En bas, c'est Atzmout, c'est l'essence de Dieu. Alors il y a la question qui vient tout de suite. Avec une telle présence de Dieu, comment on tient? C'est pas possible. Pourquoi on brûle pas? Comment on tient? Si Dieu il est tellement présent. Qu'est-ce qu'on a dit? On a répondu que Dieu a créé un flou pour cacher cette force extraordinaire. C'est voulu, pour nous donner le libre arbitre. Dieu a créé un flou. Il a créé également la Torah, qui est appelée Oz, Hachem Oz, l'Amoïten. D'accord? Oz, ça veut dire la puissance. Grâce à elle, le monde peut tenir.
Ça vient le magicien.
D'accord? Donc, ça veut dire, il y a deux éléments ici. Premièrement, Akadosh Baruch Hu, a créé un flou, qui fait que, on est aveugle. On voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a des choses, par exemple, comme on l'apprendra dans la paracha de Balak, il y a des choses que les animaux y voient, et nous on voit pas. Même les animaux y voient, ils voient des choses, et nous on voit pas. Pourquoi? Parce que Dieu a mis un flou, sinon on n'aurait pas pu tenir. Sinon, notre âme serait envolée. Ça c'est premièrement.
Ce flou, c'est quoi?
Et deuxièmement, c'est quoi?
C'est une lumière, ce flou.
Non, c'est un flou. C'est un flou qui fait que tu vois pas. C'est aveuglé. Tu vois pas.
C'est la lumière, alors. C'est aveuglé.
Ah, ça on verra après, chapitre 39. D'accord. Donc, 39. Donc il a créé la Torah, appelée Oz, la puissance, grâce... Donc ça, c'est... premier élément, on a dit Dieu a créé un flou. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Dieu nous a donné la Torah. Et dans la Torah, il y a la force. La Torah nous donne la force de tenir. Que même, c'est-à-dire même un tzadik, par exemple, qui arrive à voir certaines choses, quand il veut tenir, grâce à quoi il peut tenir? Torah. Il étudie la Torah. La Torah, c'est une force, c'est un antidote. Tu étudies la Torah, tu peux avoir la plus grande lumière, tu bouges pas. Tu peux rester dans ton corps. Jusqu'à quand ce flou? Jusqu'à quand ce flou? Hein, chacun, ça va durer ça. Alors, on a dit que lorsque ma chair viendra, Dieu, on a la fameuse notion d'ouvrir le rideau, Dieu enlèvera le voile. Alors, on verra la révolution générée par nos actes, qu'on va développer dans le chapitre 37. Donc, en vérité, quand on fait les mitzvot, on génère une révolution dans ce monde. On fait des choses, mais nous, on voit pas. Quand Akadosh Baruch Hu, il va amener ma chair, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va nous mettre des rébans ou il va nous enlever des rébans? Hein?
Ouais, je sais pas.
Ça peut être les deux, certainement. Il va nous ouvrir les yeux. D'accord. Il va nous ouvrir les yeux. Et Akadosh Baruch Hu va faire qu'à ce moment-là, le flou ne sera plus là. Alors comment on va tenir? On va s'envoler? Non, on aura la Torah. Est-ce que ce flou a toujours existé? Le flou que je viens de dire, le fait qu'on ne voit pas Akadosh Baruch Hu, est-ce que ça a toujours été comme ça? On a dit non. Au don de la Torah, une sensation pré-Mashiach a déjà existé. Alors, le peuple juif était témoin du fait que rien au monde ne pouvait faire obstacle à sa lumière. C'est-à-dire comme ça. Moi, quand je vois aujourd'hui une table, je vois pas la lumière de Dieu. On dit que quand les Juifs, le peuple juif a reçu la Torah, partout où il tournait la tête, partout il y avait la lumière de Dieu qui sortait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il regardait une pierre, par exemple, il ne voyait pas la pierre. Il voyait la lumière de Dieu. Il n'y a rien au monde qui pouvait être un obstacle pour la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, cette sensation a été prématurément arrêtée par nos fautes. Eh oui.
Ah oui.
Par nos fautes. Ça veut dire qu'en vérité, le monde n'était pas encore prêt.
Elle dit la Richa.
Le monde n'était pas encore prêt.
Oh.
Le monde n'était pas prêt. D'accord. Ça veut dire quoi?
Quand il est arrivé, c'est qu'il l'était.
On a expliqué que normalement,
il a pas pu maintenir le niveau.
Normalement, ça n'aurait jamais pu arriver qu'on aurait voulu fauter. Si c'est arrivé qu'on a fauté, ça veut dire que le monde n'était pas prêt. C'est-à-dire qu'il y avait une révélation qui était trop forte pour le monde. Et c'est pour ça qu'on avait dit d'ailleurs que quand ma chair viendra, Dieu ne redonnera pas la Torah encore une fois. La Torah, il l'a déjà donnée. Le dévoilement, il l'a déjà donné. La seule chose qu'il fera, c'est qu'il nous ouvrira les yeux. Il nous dit voilà. Quand je vous ai donné la Torah, je vous ai montré ce qui se passait. Vous avez fait les malins. Bon, j'ai fermé vos yeux. Maintenant, quand ma chair va venir, continuez à bosser. Quand ma chair va venir, je vais vous ouvrir les yeux et là, vous allez voir ce que vous êtes en train de faire. Il y aura pas, Dieu va pas donner une nouvelle Torah. D'accord. Notre mission aujourd'hui, se préparer à la même sensation qu'au don de la Torah, c'est ça en vérité. Qui met cette rame Eret Mitzrayim, Arenu, Niflaot. Quand ma chair va venir, on verra la même chose qu'à la sortie d'Égypte. Alors quoi, pourquoi on bosse? Donc, on se préparait à la même, notre mission aujourd'hui, se préparer à la même sensation qu'au nom de la Torah, mais de manière qu'aucune faute ne puisse entériner ce dévoilement. C'est-à-dire, rien ne peut arrêter ce dévoilement. Et là, ça veut dire que le monde sera effectivement prêt.
On sait pourquoi on n'était pas prêt à
ça. Alors ça, c'est chapitre 37. Bonne question. Donc, on a eu déjà deux notions.
Il y a ce chapitre pour avoir chaque fois un chapitre
après. Ah ouais. Ouais. Ah, t'as la réponse juste après.
Non, juste après, la page.
Juste après, la page suivante. Donc déjà, vous m'arrêtez, hein, si c'est pas clair. Hein.
Non, c'est très bien.
On va pas t'arrêter, quoi.
C'est du boulot, c'est du boulot.
Tu fais comme ça.
Donc déjà, on a eu des...
Non, mais on peut pas écouter au smash à quoi, c'est impossible.
Donc déjà, on a eu...
Dans le tri.
Déjà, on a eu deux notions. On a expliqué le concept de la soto.
C'est dur pour moi. Faut que j'écoute à toi.
Bon, on m'a dit, il va prendre...
Faut que je tienne la route.
Par politesse.
Par politesse.
Il boit même pas une goutte. Voilà,
je suis dans le rouge.
David.
Voilà, saute.
Tu dis quoi? Attends, je vais prendre un
peu. Oh là, c'est trop là.
Tiens, David. C'est tout pour toi.
On se bat d'accord.
Tu vas au boulot ou. Non. Cette notion de forêt qui crée le.
Oui.
Finalement un rempart ou une.
Oui, qui crée une cloison.
Cloison.
Pas une cloison, c'est un antidote.
Un antidote. C'est pas pour ceux qui acceptent la Torah.
C'est sûr. Ah oui.
Alors, pour les autres,
vrai, hein.
Bah, ils devront l'étudier.
Non.
Oui.
Je comprends, mais c'est-à-dire finalement le monde tient que si on accepte la Torah. Hein.
Non, là je suis pas en train de parler du fait que le monde tient grâce à la Torah. C'est pas tout ça que j'ai parlé. J'ai simplement dit qu'une des qualités de la Torah, c'est que la Torah a une force, qu'elle peut en même temps te faire passer un message extraordinaire, et en même temps te faire rester sur Terre. Normalement, c'est pas possible. Normalement, dans les sciences, si tu fais exploser la cervelle à quelqu'un, sa cervelle explose. D'accord ? Tu lui mets des trucs trop forts pour lui, il explose.
D'accord.
La force de la Torah, c'est qu'elle peut exploser la cervelle et te la garder. D'accord. C'est ça, la force de la Torah.
C'est ça.
Très fort.
Enfin,
exploser la cervelle, c'est un peu...
C'est comme
le paradis artificiel.
Comme
les
paradis artificiels,
il t'explose
la tête, mais il t'explose pas vraiment.
C'est quoi le paradis artificiel ?
Le mec, il se chauffe.
Les champignons,
hein. Le mec, il se chauffe,
ça.
C'est le
chiffre.
Le mec, il se chauffe, ça. Non, en tout cas, dois-je chipper des allusions ?
Oui, je sais pas.
Je sais pas,
moi.
D'accord.
Shoot, hein, c'est bon.
Donc, on a eu deux notions jusqu'à présent. Chapitre 35, chapitre 36. On a expliqué le concept de la force de la mitzvah.
On prend tout dans le talent, mais shoot.
Et on a expliqué le concept de Bétartonim, que le but ultime dans le monde est en bas. Donc, encore une fois, c'est la suite. La suite directe du chapitre 35.
Ouais.
Si le but, c'est l'action, donc on comprend, ça va toujours dans le même sens. Dans le chapitre 36, il nous dit que le but est en bas. Le but est dans ce qui est de plus bas possible. Là, on passe à la page numéro 2. Il n'y a pas de numéro, mais...
37.
Ouais.
C'est la hauteur du SMS.
J'espère qu'on aura le temps.
Il y a SMS aujourd'hui ?
Pas ouais. De promesses.
Non, voyez, peut-être c'est l'ancien téléphone. Je n'ai pas fait...
Tu as raison.
Un cours va ne pas manquer.
Un cours va ne pas manquer.
D'accord.
Je suis venu du chemin, moi. Non, j'ai pas eu.
Je vous l'enverrai après.
Alors. Non, ça marche pas sur l'iPhone. Là,
donc,
non,
peut-être j'ai envoyé sur l'autre téléphone.
Ouais, alors, c'est peut-être un autre que tu reçois.
Donc,
c'est tombé sur un black ou un petit code. Et pour ne pas manquer, qu'est-ce que tu veux, celui-là.
Après, il y a vu que Chouche.
Quand on est arrivé,
j'espère que t'as pas mis l'adresse.
J'espère qu'on aura le temps d'arriver au chapitre 41. Bon, c'est pas grave. Hein, c'est très important de réviser.
Je crois pas qu'on va y arriver.
Très bien.
Ensuite, on est arrivé au chapitre 37. Chapitre 37, toujours avec le même grand titre, l'action sinon rien. On est toujours dans l'action. On a expliqué, pour répondre à ta question, comment c'est quoi le but de l'exil. Maintenant qu'on a expliqué que là, surtout, le but c'est en bas, la force du mitzvah c'est en bas, en bas, en bas, en bas. Ok, alors c'est quoi l'exil? Pour répondre à ta question, on a dit que le but de l'exil, c'est pas une punition que Dieu nous donne. Bien sûr c'est une punition, mais c'est une punition réparatrice. On est en train de créer l'avènement messianique, créer la réalité messianique. Donc déjà on a ramené... Une phrase de Pirkei Avot qui dit comme ça, Srar mitzvah mitzvah, ou Srar avera avera. Srar mitzvah mitzvah, premièrement. Le vrai salaire, littéralement, c'est-à-dire le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. C'est un gars, tu vois, tu lui demandes de travailler, il travaille, après tu lui dis, c'est quoi ton salaire? Ben c'est que t'as travaillé, si tu veux, je peux t'en donner encore, tiens, travaille encore. Ça tombe bien. C'est quoi cette histoire?
Travailler plus pour travailler plus.
Hein, voilà.
Déjà, il s'est fait préciser avec son truc, là, il s'est après.
Il a un cours de Daniel, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr. Il n'a pas tout compris. Non,
c'est... Hein. C'est quoi cette histoire? Sera mitzvah, mitzvah. On a expliqué. Le vrai salaire d'une mitzvah, hein, ça veut dire quoi que le salaire d'une mitzvah est une mitzvah? Hein. Ça veut dire que le vrai salaire d'une mitzvah est la réalité créée par elle dans le monde. C'est ça, le vrai salaire. Le vrai salaire d'une mitzvah, c'est quoi? Quand j'ai fait une mitzvah, je crée une réalité dans le monde.
Vraiment ? Vraiment ?
Il retourne aux sources. Pardon ?
Quand je fais une mitzvah...
Oui, désolé.
C'est bon.
Il nous a lancé sa recours en subliminal, et après...
Non, moi, je sais pas, j'ai travaillé plus sur taille plus j'ai...
Ouais, voilà. Il est pas en plus, hein ? Du style, moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit, ouais. Julien, travaillez plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé sa recours, non ? Voilà.
Schar mitzvah. Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Ça veut dire quoi, hein? Le vrai salaire d'une mitzvah est la réalité créée par elle dans le monde. D'accord? Le plus grand salaire qu'on peut avoir d'une mitzvah. Bien sûr qu'il y aura le Gan Eden, il y aura tout ça.
C'est de la concrétisation.
Mais le plus grand salaire qu'on peut avoir,
c'est
ce que la mitzvah génère. Quand on fait une mitzvah, on génère une réalité dans le monde. On génère une réalité dans le monde, comme on va expliquer tout de suite. D'accord? On génère une réalité dans le monde grâce à une mitzvah. Et le plus grand salaire qu'on peut avoir, c'est le fait qu'on a généré cette réalité.
C'est pour ça que
quand ma chère va venir, la seule chose que tu vas faire, va dire, regarde, ton salaire, je vais te montrer ce que tu as fait. Ce sera le plus grand salaire qui peut exister. D'un autre côté, il faut dire la réalité, Sra Avera, Avera. La vraie punition d'une Avera, la vraie punition, c'est mis à part les coups qu'on reçoit, ça c'est rien, ça c'est bidon ça. La vraie punition d'une Avera, c'est les dégâts qu'elle a générés. Imaginez-vous. Dieu, quand ma chère va venir, il va nous relever, il va dire, regarde ce que tu as fait. Sra mitzvah, mitzvah, Sra Avera, Avera. Alors, que se passe-t-il?
Voilà.
Bah parce que quand je fais une avéra, je génère du mal dans le monde. Donc la pire des punitions, c'est quand on m'ouvre les yeux, on dit regarde ce que tu as fait.
La conséquence.
D'accord? C'est la pire des choses. Très bien. Alors, et là, tu as raison, c'est pas assez développé, c'est pour ça qu'on passe au point d'en dessous.
Voilà.
Que se passe-t-il quand j'accomplis une mitzvah? Voilà. Que se passe-t-il? Il y a quatre choses qui se passent quand j'accomplis une mitzvah.
Le matin, par exemple,
ça y est, ça attaque.
Que se passe-t-il, allez messieurs s'il vous plaît, que se passe-t-il quand j'accomplis une mitzvah? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que quand je fais une mitzvah, je génère une réalité dans le monde, je génère quelque chose. Je fais quoi? Et ça veut dire quoi je génère? On a expliqué quatre points. Premier point, l'énergie qui fait vivre l'objet avec lequel la mitzvah est accomplie monte vers Dieu. Par exemple, d'accord? Je vais faire une bracha sur un verre de coca qui est devant moi, d'accord? Donc, ce verre de coca tient par une énergie d'Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas d'énergie, le verre de coca n'aurait pas existé. Donc cette énergie-là, quand je fais une mitzvah avec, cette énergie-là monte chez Akadosh Baruch Hu. Premièrement. Deuxièmement, l'énergie déployée par l'homme, ça peut être en action ou en parole, pour accomplir la mitzvah, monte vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, par exemple, pour faire la mitzvah ici, pour boire ce verre de coca, j'ai dû travailler pour acheter le coca. J'ai travaillé, j'ai dû prendre dans ma main, j'ai dû déployer une certaine énergie.
Fournir.
Cette énergie-là également, elle monte chez Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement. Troisièmement, toute la chaîne de production qui a permis à l'objet de la mitzvah d'être là, monte vers Akadosh Baruch Hu. C'est très fort. Ça veut dire là, on a la chaîne de production, toujours dans si je reprends ma bouteille, d'accord, on a le camion qui l'a amené, l'usine qui l'a fabriqué, et tout, et l'eau qui est dedans, et celui, tout. Celui qui a planté, je sais pas, c'est quoi, c'est des graines, c'est quoi le copain? C'est de la coque.
D'accord.
Celui qui a planté ce qu'il fallait planter, toute la chaîne de production monte chez Akadosh Baruch Hu. D'accord. Donc ça, là déjà, là on comprend déjà beaucoup mieux qu'est-ce que ça veut dire qu'on génère quelque chose quand on fait une mitzvah.
D'accord.
Quatrième chose.
Comment il fait là-haut pour gérer tout ça, mais je sais pas.
Je sais pas comment il fait. Ouais.
Parce que c'est
non, ça fait peur.
De production.
C'est peur pour la Vera.
Ouais, c'est ça, je sais bien. C'est ça.
Qu'est-ce qui se passe pour la quatrième point, quatrième élément, on a dit, tout ce qui a permis à l'homme de prendre des forces pour accomplir cette mitzvah monte vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire non seulement l'énergie que j'ai fournie au moment où j'ai accompli la mitzvah, cette énergie la monte chez Akadosh Baruch Hu, mais tout ce qui m'a permis d'avoir cette énergie. Par exemple, le fait que j'ai mangé. Donc la nourriture que j'ai mangée, elle monte aussi. Le fait que j'ai travaillé. Pareil, j'ai travaillé, ça n'a aucun rapport avec ma mitzvah. Quand j'ai travaillé, j'étais pas en train de faire une mitzvah. Qu'est-ce qu'on te dit? Quatrième point, qui est très très fort. Tout ce qui a permis à l'homme de prendre des forces pour faire cette mitzvah, il monte aussi chez Akadosh Baruch Hu. Quatre éléments. Quand je fais une mitzvah, d'accord? Quand je fais une mitzvah, j'ai quatre types d'énergie qui sont générées. L'énergie qui fait vivre l'objet, l'énergie que moi je déploie pour sur le moment de faire la mitzvah, la chaîne de production pour arriver à l'objet, et on a expliqué la quatrième chose, c'est ce qui m'a permis d'avoir l'énergie de faire la mitzvah. Donc ça veut dire tout, ça peut aller très très loin. Ça peut aller jusqu'à ma mère qui m'a donné naissance.
Et jusqu'à Adam Harishon.
Sans fin, jusqu'à Adam Harishon.
Il y a du monde là où on va voir.
Mais on n'a pas, conscience.
C'est ingérable.
On peut toujours conscience.
Oui, on est sur une puissance.
C'est ça, c'est pour ça que c'est...
Ah, c'est sûr. Là, ça veut dire que quand je... Et ça, c'est le plus grand salaire que Dieu va nous donner quand ma chère va venir. Quand ma chère va venir, Dieu va nous ouvrir les yeux. Il va dire, regarde, t'as fait une mitzvah pour toi, c'était rien, t'as mis juste tes tefillines, t'as rien fait. Je vais te montrer ce que t'as fait.
Montrer la vache, qu'est-ce qu'il y a depuis la vache.
Que se passe-t-il lorsqu'une avéra est transgressée, Dieu préserve? Quand? Vous avez vu, avant j'ai dit que se passe-t-il quand j'accomplis une mitzvah, et là je dis que se passe-t-il lorsqu'une avéra est transgressée.
C'est une faute.
Non, c'est pas une faute, au contraire.
on transgresse pas une avéra.
Au contraire.
Non. Ouais, c'est vrai, c'est un double négatif.
Oui, c'est ça.
La Vera, c'est déjà bon, en soi une transgression.
On ne fait pas de la Gemara. Que se passe-t-il, que se passe-t-il quand j'accomplis une mitzvah? Que se passe-t-il quand une Avera est transgressée?
Non.
Elle est
accomplie. La Vera n'est pas transgressée. C'est une transgression à elle-même.
Tu peux transgresser que le
sujet.
Ah, ça se dit, non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas dit c'est quand je transgresse une Avera.
Mais en Belgique, c'est bon. En Belgique,
on dit, ça se dit.
En Belgique.
Non, en Belgique. Non, en Belgique, on dit pas
ça se dit, bien sûr, on dit un homme au vert à Vera. Transgresse une Avera, ça se dit.
Ah oui, en fait,
mais Avera, c'est une marque déposée.
En hébreu, ça se dit.
Ça se dit, ouais.
En français ?
Non, pas en français.
Donc, que se passe-t-il lorsqu'une avéra...
La question, c'est... En hébreu, toujours... Mais en belge, ça marche.
En belge ? Que se passe-t-il lorsqu'une avéra est transgressée ? Eh bien, vous comprenez bien que ces quatre types d'énergie... Ces quatre types d'énergie sont transmises aux forces du mal. D'accord ? Là, c'est de l'autre sphère. Les quatre énergies que je viens de dire ici, la même chose, au lieu de les monter vers Akadosh Baruch Hu, vous les passez aux forces d'image. Réaction en chaîne. Razak. Ça se finit, c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire que quand je fais une avéra,
je ne maîtrise plus l'énergie en question.
Ça veut dire que tout le monde paye pour moi. Après, mes parents, mes grands-parents, je fais Adam Harishon. Très très grave. Ça veut dire, là, avec ça, on avait expliqué en passant, on avait expliqué le concept de la responsabilité du clan Israël. Très bien.
Oui,
c'est de l'autre sens.
Ouais.
Bon. Alors, maintenant, on continue. D'accord.
Qu'attend
ma chère pour venir. Donc puisqu'on a expliqué que le concept de... C'est égal. Alors c'est quoi la question? Parce que comme on a dans le titre, on a expliqué que dans l'exil, on crée la réalité messianique. D'accord.
Oui, il adore. Allez, maintenant, plus gros.
D'accord. Monsieur David, puisqu'on a expliqué que l'exil, ça crée la réalité messianique, alors à partir de quand il va considérer que c'est bon, la réalité, elle est créée? Réponse. Quand toutes les énergies... Donc qu'est-ce qu'il attend, ma chère, pour venir? Il attend que toutes les énergies perdues dans le monde depuis la faute initiale d'Adam Harishon, parce que c'est, comme tu as dit, c'est une réaction sur réaction en chaîne.
Bon, on est foutu, quoi.
Que toutes les énergies... Non, parce que c'est valable dans le côté négatif, dans le côté positif aussi.
Ouais, mais...
Que toutes les énergies perdues dans le monde depuis la faute initiale remontent vers Akadosh Baruch. Donc si on nous dit qu'on est à la fin des temps, ça veut dire quoi? Si on nous dit qu'on est à la fin des temps...
Ça veut dire que la plupart...
Ça veut dire que la plupart des étincelles sont déjà remontées chez Akadosh Baruch.
Donc les transgressions, les avérotes, c'est qu'une conséquence des fautes de Marie-Jeanne.
C'est ça, oui.
Oui et non.
Je sais pas. C'est peut-être une réaction en chaîne de...
Non, parce qu'en vérité, c'est une bonne question ce que tu poses. On avait expliqué qu'il faut s'imaginer le monde comme une seule entité, qui monte et qui descend. C'est comme la bourse. Ça veut dire que tu fais une mitzvah, le monde entier descend. Comme ça, il dit Maïmonide. Il dit que quand un juif a fait une mitzvah, il doit s'imaginer qu'il a basculé le monde entier. C'est-à-dire quoi, j'ai basculé le monde entier? Le monde entier, je sais rien, moi, je suis une minorité par rapport au monde entier. Qu'est-ce qu'il répond, le Rambam, par Archimède? Rambam, il répond, il te dit que... D'accord? Qu'est-ce qu'il te dit, le Rambam? Il te dit qu'il faut imaginer que le monde entier est basculé vers le bien. Pourquoi? C'est le concept que je suis en train d'expliquer. Que... Le monde entier, il monte, il descend. Ça monte, ça descend. Le monde entier. Quand je fais une mitzvah, c'est tout le monde qui prend avec moi. Et pareil, quand je fais une avéra. En astronomie, c'est pareil. Le monde entier, c'est une seule entité. C'est une seule entité.
Donc, si c'est une réaction en chaîne, c'est-à-dire que c'est la première cause qui est la cause du reste.
Bien sûr.
Donc, c'est pas une réaction en chaîne. Parce que chacun dans la chaîne, on a aussi...
Très bien, mais après, la réaction en chaîne. Après, à un certain moment, la mitzvah te permet de récupérer. Donc, tu récupères, mais après, on retombe.
Ça peut être une réaction en chaîne, mais moi aussi, je peux, dans la chaîne, soit... uniquement répercuter la pulsion qui arrive, soit moi-même être un peu dénervé.
Exactement, exactement, 100%, t'as raison.
Ouais. Là, vous avez voté, là.
Julien, oui.
Sur ce que me dit, c'est que la quantité d'étincelles soit suffisante, soit remontée.
Oui.
Est-ce que ça signifie qu'à Matin de Torah, la quantité suffisante était remontée et qu'elle s'est redispersée ensuite?
Oui, 100%, ouais, c'est ça.
Tu ergotes.
Rien ne se fait.
Ah, 100%. Il a raison, il pose une autre question. Enfin, je vais essayer d'expliquer un peu différemment la question de Julien. Qu'est-ce qui est tellement grave dans la faute du veau d'or? Si on nous dit que quand le peuple juif a reçu la Torah, à ce moment-là, apparemment, on était prêt pour Mashiach. C'est-à-dire que toutes les étincelles étaient remontées. On est bien d'accord. Pourquoi la faute du veau d'or est tellement grave? C'est une faute. À cause de ça, ça y est, c'est fini, on est reparti jusqu'à pour 2000 ans. La réponse est très simple, c'est que c'est la même chose. Comme c'est une réaction en chaîne, donc la faute du veau d'or a la même gravité que la faute d'Adam Harishon. Parce que c'est elle qui a lancé le processus.
Monde de choc.
C'est très grave. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on paye pour une avéra que nous on fait, il y a toujours une petite partie qui est pour la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que c'est la faute du veau d'or, elle a la même gravité, si ce n'est plus, que la faute d'Adam Harishon.
Il faut souhaiter qu'il n'y en ait pas d'autres comme ça, parce que sinon on repart pour...
Non, mais encore une fois, la gravité qu'il y a dans la faute du veau d'or, c'est pas simplement à cause du concept de la faute. C'est aussi parce que comme c'est la première faute, donc c'est elle qui a lancé la réaction en chaîne. Après, c'est fini.
C'est
comme dans le Tchernobyl. Voilà. Tu vois, le plus grave, c'est le premier. Après, les autres, après, ils suivent.
Mais tout le monde a reçu la Torah, tout le monde a fait le veau d'or.
Ceux qui ont fait le veau d'or, ceux qui ont fait le veau d'or, ils ont généré, comment on dit, généré comme ça, ils ont généré
une onde de choc
négative dans le monde, qui se propage jusqu'à la fin des temps, et qu'on est en train de récupérer jusqu'à aujourd'hui. Avec ça, on explique ce que la Gemara a dit, que jusqu'à aujourd'hui, on récupère la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Big Deal, c'est quoi la fin du monde? On a eu des histoires dans lesquelles la majorité du peuple juif faisait Avodah Zara. C'est tellement grave. Non, la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'il y a la faute du veau d'or? D'accord. Alors, mis à part le fait que c'est parce que le timing, c'est juste après le nom de la Torah, mais à part ça, c'est parce que
c'est un jour après.
Ah, c'est juste après.
L'important. Il était même pas un dessin du Moshe.
30 jours. Pour lui, ça s'appelle après, mais c'est 40 jours, quoi. C'est grand. Ça fait des poussières.
C'est juste après. Ouais, c'est comme celui à Hanouka. Tu te rappelles Hanouka? C'est hier Hanouka.
Bon.
Pourquoi il n'y a pas eu 40 jours de temps messianique?
De quoi? Il y a eu 40 jours de temps messianique. C'était 40 jours de temps messianique. Pendant ces 40 jours-là, c'était comme Mashiach, la même chose. Quand Mashiach viendra, on vivra la même chose. Qui met cette rame Eretz Mitzrayim
à
la même
place. Faut voir.
D'accord. De
ok. Ouais. Tu verras après si tu veux.
Ensuite... Un provocateur, hein.
Ah ouais, pas de problème.
Non, parce qu'on peut pas dire ça que les gens, c'est Sadikim, ils ont fait Averot, etc. Alors qu'ils étaient dans le temps messianique. Parce que Hachem, il était dans le coup aussi. Il voulait pour d'autres raisons.
Comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que le monde n'était pas prêt. Ça veut dire que le monde n'était pas prêt.
Donc Hachem, il a fait
un monde. Ça passe, il enregistre tout.
Quand tu retends...
Okay.
Sur Internet, après, on va goûter ma
femme. Non, tu peux... Certainement, tu as raison. Certainement que Hachem, quelque part, a laissé faire la guerre. C'est sûr. Mais ça ne change pas qu'il y a un libre arbitre et qu'on paye. Et que tous ceux qui ont fait la faute du veau d'or ont payé. Parce qu'ils ont choisi de faire la faute du veau d'or. Je ferme la parenthèse. Dans le temps, non.
Mais alors tu m'as dit que c'était
non, dans le temps messianique. Le temps messianique, tu voudras plus faire une avéra.
Non, là tu es en goutte.
Parce que le monde a été changé.
Tu m'as dit que c'était temps messianique pendant 42 ans.
Mais le monde n'était pas prêt. Quand le monde n'était pas prêt, si, c'était la même évolution que les temps messianiques. Ça veut dire que le monde entier était un réceptacle pour la lumière de Dieu. Mais le monde n'était pas assez prêt. En plus, le monde n'était pas assez prêt, à la première occasion, enfin la première, je sais pas si c'est la première, mais dès qu'il y avait une avéra, ils l'ont faite, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour ça encore. Très bien. Bon. Juste en dessous. Allez. Que vont devenir les forces du mal? Aujourd'hui, on voit le monde, c'est une question qui est très forte. D'accord? On voit aujourd'hui les forces du mal. Quand on voit le mal, comment... Quand on voit aujourd'hui le... Argoté...
Argoté, il n'arrête pas, je suis désolé. La démission, je m'arrête.
Quand on voit aujourd'hui le mal, la force du mal, comment le mal est très très fort. D'accord. Donc on se dit, mais c'est pas possible, quand Mashiach va venir, tu me dis qu'on approche de la venue de Mashiach, mais quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va devenir tout ce mal? Où il va aller tout ce mal?
Ben, il va se transformer en...
Qu'est-ce qu'on a répondu? Faux. On a répondu que, mais que vont devenir les forces du mal? Elles vont cesser d'exister. Toute leur existence provient du peuple juif. Ça veut dire comme ça, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est un flou, que ça rentre dans le flou encore une fois. Nous, on a l'impression, on croit qu'on a un mur devant nous, mais en vérité, c'est du bluff, du pipeau. Et quand Mashiach va venir, Dieu va simplement dire au peuple juif, bon, très bien, maintenant on arrête d'alimenter le mal.
On va pas ça quand même au goyim, parce qu'ici on dit que toutes les forces du mal...
On arrête d'alimenter les goyim, je pense qu'ils se prennent pas pour les forces du mal.
Non, mais si
on... un goyim sont concerné, tu lui dis, vous sentez les forces du mal?
Non, mais si, on dit que toutes les forces du mal proviennent du peuple juif...
C'est encore la faute aux juifs.
C'est encore la faute aux juifs. D'accord. Toute leur existence provient du peuple juif. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir?
C'est chaud, ça.
Puisque le peuple juif va arrêter d'alimenter le mal arrêtera d'exister. Point. C'est pas, il n'y aura même pas besoin de le détruire, de le casser, de rien.
Ils ont raison, en fait.
Comment il dit à quel jour? Va être roi Hatouma à Avir Min Haaret. Dieu, quand Mashiach va venir, d'accord, il dit au peuple juif, bon, on arrête d'alimenter.
Si, eh bien, du peuple juif, faut leur rappeler.
Bien sûr.
Ils ont à moitié raison, là.
Ok. Alors, on continue. Ensuite. Ai-je une mission particulière dans le monde ou puis-je travailler dans le tas? Hein, quelqu'un dit, bon, moi je travaille dans le tas. Tu me dis, ok, j'ai une mission, mais est-ce que j'ai une mission particulière? Toujours dans le même, dans le... Je me dis, créer la réalité messianique. Mais comment ça marche? Est-ce que le clan Israël doit générer une réalité, mais dans le prat, dans le détail? Est-ce que chacun a sa mission? Qu'est-ce qu'on a répondu? Chaque Neshama a une partie dans le monde qui l'attend. Et maintenant, pour A, séparer progressivement l'âme animale des forces du mal. D'accord? Donc, petit A. Séparer progressivement l'âme animale des forces du mal. B, transformer cette énergie en bien afin qu'il puisse monter vers Dieu. Donc ça, vous avez compris, c'est le positif et le négatif.
Bah, tu vois, transformer l'énergie en bien, alors, tu vois.
Dieu guide sa neshama vers sa mission. D'accord. Dieu guide la neshama vers sa mission. Parce qu'on a dit que chacun a une mission. Deux choses à savoir, comme une mission. Dieu guide. Et si Dieu a besoin de faire passer ça par les tzadikim, il fera passer par les tzadikim. C'est-à-dire Dieu va s'arranger pour que j'arrive à l'endroit où je dois faire ma mission. Chacun dans le monde a un endroit qu'il attend pour faire sa mission. C'est-à-dire que je dois faire mon travail de dira betartini dans un endroit précis. À Paris, rue Paul Enfer. Le jour où on aura fini rue Paul Enfer, Dieu fera qu'on partira de rue Paul Enfer. Comme ça. Ah, tu me dis, mais d'où on va savoir si on doit partir? T'inquiète pas, Dieu il s'arrangera pour te faire savoir. Ou bien par un tzadik, ou bien il s'arrangera pour que tu pars d'ici. Donc chacun a une mission particulière dans le monde. Donc toujours ça rentre dans le même cadre, pour créer la réalité messianique, on a une mission particulière dans le monde, on ne peut pas travailler dans le tas. Ensuite, combien de neshamot existent? Moi j'ai fait sous forme de questions-réponses parce qu'on a eu... Parce que, bon, bien dans le Tania, c'était pas sous forme de questions-réponses, mais je pense qu'avec comme ça, c'est plus facile à comprendre.
On l'avait fait, ça, hein. Bien sûr, on l'a fait. Le tas et le machin.
Si, si. Oui, si. Avec le Baal Shem Tov et tout, le Baal Shem Tov qui dit...
La mission, etc.
Le tronc d'air d'autoroute et tout, tu te rappelles? Ok. Combien de neshamot existent? Ça, tu dois t'en rappeler.
Oui, 600 000.
On a dit 600 000 neshamot, 600 000 âmes principales, fois 600 000 étincelles, fois 2, donc deux niveaux de Nefesh et Ruach, fois les 4 mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, qu'on développera tout de suite dans le chapitre 39. Donc en tout, ça fait combien?
Le chiffre, billions.
D'accord. 2 billions.
880 milliards.
2 billions de particules de neshamot, fois...
C'est lui
attendez,
qui connaît les chiffres.
D'accord.
Déjà. Ah voilà. C'est des billions.
D'accord, alors c'est des billions.
C'est le monsieur là-bas qui a dit.
C'est le seul à perdre autant d'argent.
Voilà, bon, mais attendez. Il y a un facteur que vous avez oublié. Il y a un facteur que vous avez oublié que j'ai rajouté en dessous.
Infini.
Fois les gilgoulim nécessaires à une neshama.
Ah baba. Oh la baba, c'est normal. Il n'y a même pas les billions.
Ça c'est hors jeu ça.
C'est pourquoi ça serait infini?
Parce que Gilgulim, ça peut être... On peut pas savoir. Quand je dis infini, c'est meilleur de dire, ça veut dire que des fois une neshama peut revenir plusieurs fois. Des fois, des neshamas sont peut-être venus 100 fois dans le monde.
Mais c'est
pas savoir.
C'est pas infini.
D'accord, c'est pas infini. C'est une manière de dire.
Donc tu m'as dit, dites-nous ce que j'en pensais, etc. Alors, Anthony...
Très bien. T'arrêtes pas de dire ce que tu en penses. Pour une fois, c'est une bonne remarque. Alors...
Je sais pas combien de fois c'est plus, toi, mais ça a dû venir assez souvent.
Ils doivent répondre à leur mission. Hein.
Mm-hmm. Ah, alors Julien, en passant, on avait expliqué que des fois, des fois une âme, ce qui est important de savoir aussi,
là ça fait la fille.
Ouais. C'est que des fois, et très souvent, une neshama peut avoir plusieurs particules des deux billions. D'accord. Et on peut avoir plusieurs particules en même temps, c'est possible ça.
Ouais. Bon. Et les tzadikim, ils en ont un pactole.
Tzadikim, en général, ils ont même une neshama principale.
Pas.
Yirida.
D'accord. C'est-à-dire, eux, ils sont à la tête. C'est pour ça que, des fois, on est attiré vers un tzadik plus que vers un autre. Parce que ce tzadik-là, il fait partie de tel neshama. Donc, j'ai un aimant, je suis attiré vers ce tzadik. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que ce tzadik-là, il est à ma neshama racine.
À ma source.
D'accord. À la racine de ma neshama. Très bien. Ensuite, on a posé la question. Est-ce que toutes les mitzvot... Oui. Créer la réalité messianique, d'accord? Est-ce que toutes les mitzvot peuvent... On a dit que qu'est-ce qui crée la réalité messianique? Surtout les mitzvot. Alors, est-ce que toutes les mitzvot peuvent accomplir ce but de manière égale? Est-ce que toutes les mitzvot sont les mêmes? Ou bien il y a des mitzvot plus chayards, comment on dit, plus probables, enfin plus appropriées, plus efficaces que d'autres. Ah, deuxième bonne remarque. Alors, toutes les mitzvot peuvent accomplir ce but de manière égale? Réponse, non.
Bien, châtie bien.
J'arrive bien.
J'arrive bien.
Donc non.
Non.
Plus la mitzvah a trait avec l'action, on dit comme ça,
ouais.
Plus le but sera atteint rapidement. La mitzvah de Tzedaka, par exemple, est bien particulière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est spéciale à la mitzvah de Tzedaka? En l'accomplissant, toutes les énergies déployées pour gagner cet argent montent vers Akadosh Baruch Hu. C'est unique dans la mitzvah de Tzedaka. Quand je donne la Tzedaka, tout le travail, toutes les heures de travail, les journées de travail, les mois de travail que j'ai travaillé pour gagner cet argent, ces heures de travail ils montent aussi chez Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rahamim nous dit que la tzedaka, de la tzedaka, Shem Karavet et Tagoula, la tzedaka approche la délivrance. Toutes les mitzvot approchent la délivrance. C'est-à-dire quoi qu'une mitzvah approche plus qu'une autre à la délivrance. Parce que puisqu'avec une mitzvah on génère la réalité messianique, alors la mitzvah de la tzedaka, Malahasot, elle génère beaucoup plus rapidement la réalité messianique. Parce que quand je fais les dans la mitzvah de tzedaka, c'est tout le travail que j'ai fait qui monte en même temps. Toutes les heures de travail que j'ai passées. Donc la réalité que je génère dans le monde, c'est beaucoup plus rapide. Très bien. Bon. Et l'étude dans tout ça, hein, Yaakov. Et l'étude dans tout ça. Et l'étude. D'accord. Bon, on va parler des mitzvotes. Alors, l'étude, est-ce que on a l'impression que les mitzvotes c'est top niveau, l'étude, bon, il faut zapper l'étude, alors c'est quoi? On dit non. L'étude dépasse les mitzvotes sur trois plans. Premièrement, elle fait appel à la pensée et la parole qui sont presque pas touchées par les mitzvotes. Une mitzvah, elle n'est pas obligée d'être touchée par la parole de manière générale, pratiquement pas. Par la parole et par la pensée. Alors que la Torah, c'est principalement la parole et la pensée. Donc ça c'est le premier point, première qualité que la Torah a par rapport aux mitzvotes. C'est qu'elle touche quelque chose que les mitzvotes ne touchent pas. Premièrement. Deuxièmement, la pensée et la parole... qu'est-ce que j'ai écrit là ? La pensée et la parole sont déifiées au moment de l'étude. Dans les mitzvot, uniquement l'âme vitale... Non, attendez. Pardon, j'ai mal formulé la phrase là. C'est que... La pensée et la parole sont déifiées au moment de l'étude. Dans les mitzvot, uniquement l'âme vitale est déifiée. Voilà, on avait expliqué comme ça. On avait expliqué que dans, quand je fais une mitzvah, c'est que mon âme vitale qui est déifiée. Mais ma main, la main avec laquelle je fais la mitzvah... Elle reste ma main. Il y a seulement une force de maquif. Vous vous rappelez, je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle est seulement enveloppée par une doucha. Mais la main, elle reste ma main. C'est pas une main. Elle devient pas kadosh. Qu'est-ce qui devient déifié, comme ça on dit, devenir déifié? Qu'est-ce qui devient déifié? C'est uniquement l'âme vitale. Ça veut dire l'énergie qui est derrière ça. Dans la Torah, c'est plus fort. Dans la Torah, les mots de Torah et la pensée de Torah que j'ai, ils sont déifiés. Ça devient un morceau d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est beaucoup plus fort que les mitzvot. Ça, c'est un deuxième point qu'il y a. Troisième point. La Torah est comparée à la tête, alors que les mitzvot sont comparés aux autres membres. D'accord ? La vitalité de la tête est bien plus importante que celle des membres. Donc c'est pour expliquer que même si on a expliqué que pour faire le job en bas, les mitzvot sont plus importantes, mais il y a quand même trois éléments sur lesquels la Torah est beaucoup plus forte que les mitzvot. Alors, étude ou action ? Hein ? Maintenant qu'on a... On a dit d'un côté l'action, d'un côté... Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une halakha pour ça. Qu'est-ce que dit l'halakha ? Si personne ne peut me remplacer...
Pour l'action,
il manque un M. Dans ce cas-là, l'action passe avant. Pourquoi ? Nettoyer le monde et préparer l'avènement messianique passe avant tout. C'est ma mission. Ah, mais je veux plus kiffer quand je vais faire la Torah, parce que je vais être à fond dedans. Oui, c'est vrai que je veux plus kiffer, mais on est là pour bosser. Et si on est là pour bosser, il faut faire les mitzvot. C'est les mitzvot qui vont créer la réalité messianique. Le cas échéant, si... J'ai quelqu'un qui peut me remplacer pour faire la mitzvah. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on te dit ? Profitons des trois qualités de la Torah précitée. Donc ça, c'est le juste milieu. Et à Kadosh Baruch Hu, de manière générale, il s'arrange toujours pour nous mettre des mitzvot qu'il n'y a que nous qui peut faire. Il n'y a que toi. Si tu ne le fais pas, personne ne la fera. Et là, dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu te dit, mon vieux, c'est ta mission. C'est à toi de le faire. C'est ta mission. C'est toi. Ça, j'attends que c'est toi qui le fais. Depuis la création du monde, j'attends que tu le fasses. Si c'est pas ta mission, Dieu il s'arrangera pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Donc, étude ou action, ça dépend. Étude, action. Maintenant, on passe à la page numéro 3. Et je finis avec ça.
Tu finis, on n'a pas fini. Hein.
Donnez-moi 10 minutes.
Sans question.
Donc, non, mais c'est important de faire... parce que là, vous allez voir...
Un an de cours en une heure, c'est beau. Non, que la cabane.
Là, c'est très important parce que les chapitres 38, 39 et 40... C'est des chapitres qui n'étaient pas simples du tout. On a parlé de beaucoup de notions. Et là, on va voir comment, en vérité, tous ces trois chapitres-là, ça allait dans un seul sens, dans le sens qu'on voulait expliquer, c'est quoi l'importance de la Kavana. Jusqu'à présent, on a expliqué l'action, en bas, l'avènement messianique, en bas, l'action. Très bien. Maintenant, on te dit non. 38, 39, 40, on te dit, c'est vrai que l'action, c'est important. Mais la Kavana a toute son importance. Pourquoi hein? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la Kavana? Alors, on a commencé à expliquer. On a dit que Rabbi Chaim Vital il ramène au nom du Arizal, il dit que une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Donc déjà, il commence à expliquer la première chose. Quelle est la différence? Quelle différence entre le corps et l'âme? Premièrement, ça a l'air aucun rapport, mais vous allez voir que c'est un rapport. On avait parlé de plein de notions, et vous allez voir comment toutes les notions, c'est une suite directe. Premièrement, quelle différence entre le corps et l'âme? Nous, on croit que la différence entre le corps, c'est l'outil, et l'âme, c'est l'énergie. C'est ça qu'on a envie de dire. Hein. Alors,
l'âme c'est vivant et le corps c'est mort.
L'âme c'est vivant, le corps c'est mort. C'est faux. La matière d'un corps est également alimentée par Dieu, tout comme l'âme. Donc c'est faux. Alors c'est quoi la différence entre le corps et l'âme? La spécificité de l'âme tient dans le dévoilement divin. Dieu se cache moins en elle. C'est tout. C'est un petit peu le même concept qu'on a expliqué tout à l'heure pour expliquer qu'est-ce que c'est Bétartonie. D'accord. Donc, la matière d'un corps est également limite. Donc ça veut dire que le corps et l'âme c'est la même chose. La seule différence, c'est quoi? On avait expliqué, c'est au niveau du trou. Azak. D'accord. L'âme et le corps forment un seul élément qui se sépare en deux dimensions. Une voilée, l'autre dévoilée. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est l'âme et le corps, ils se complètent. L'âme, c'est plus dévoilé, et le corps, c'est voilé. Très bien.
Toujours le voile.
Toujours le voile. Donc là, on a compris qu'en vérité, c'est une question de voile, en vérité. En vérité, c'est la même lumière, c'est une question de voile. Alors, ce voile, comment il est créé? Ce voile, il est créé en quatre étapes. Création du voile en quatre temps. Et c'est d'ailleurs les quatre dimensions du tétragramme, Yudke Vavke. Et d'ailleurs, d'accord, ces quatre dimensions correspondent au minéral, végétal, animal et humain. Premièrement, minéral. Là, ça va être la différence entre mitzvot et ma'asim tovim. Premièrement, c'est le minéral. C'est quoi le minéral? Le minéral, on a expliqué que ça correspond, le minéral, c'est quelque chose qui bouge pas, qui nous a l'air inerte. Ça correspond au mitzvot matériel, mitzvot physique. Une mitzvot physique. Ça, une mitzvot aimer Dieu. Une mitzvot physique, construire une souka, enfin, c'est pas une mitzvot construire une souka, mettre les téfilines, physique. Très bien. Ensuite, on a le végétal. C'est quoi le végétal? C'est aussi inerte, mais ça bouge un peu. C'est quoi? On a expliqué que, au nom de Rabbi Chaim Vital aussi, ça correspond au mitzvot spirituel. Quand je dis mitzvot spirituel, qu'est-ce que j'entends par là? C'est les mitzvot qui sont moins en rapport avec le physique. Par exemple, aimer Dieu, craindre Dieu, on a pas mal de mitzvot comme ça. D'accord? Que Dieu, par exemple, te dit, quand Dieu te dit, par exemple, quand tu verras ton ami qui est,
dans l'âme,
par exemple, te dit, voilà, tu n'auras pas le droit d'haïr ton frère dans ton cœur. C'est pas physique comme mitzvah. C'est mitzvah qui est spirituel. Très bien. Bien métaphysique, si vous voulez. Ensuite, l'animal. L'animal, on a dit, c'est la kavana ressentie. La kavana ressentie, exemple, je marque ici, peur, bombe atomique. Vous vous rappelez?
Oui.
Les gens qui ont peur que la bombe atomique va exploser. Très bien. Ça il ressent. Mais, d'accord? Ça l'empêche pas de vivre. Ça veut dire qu'il doit se le rappeler constamment. C'est pas quelque chose qu'il dort avec. Ça va, c'est pas la fin du monde. C'est pas très grave. Il faut se le rappeler constamment. Ça, on appelle ça la kavana ressentie. Le fait de se rappeler constamment du danger de l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu génère une kavana qui propulse constamment la personne. Constamment propulsé. Par quoi t'es propulsé? Parce que j'ai peur de m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut se le rappeler constamment. C'est pas naturel. Ensuite, on a expliqué c'est quoi l'humain. L'humain, c'est quoi? C'est la kavana analysée. L'analyse de notre éloignement à Kadosh Baruch Hu génère une kavana globale qui va animer toutes les mitzvot. Là, c'est plus fort. Ça veut dire comme ça. L'animal, c'était plus par les sentiments. C'est-à-dire, je me rappelle constamment que j'ai peur d'être loin d'Akadosh Baruch Hu. Là, l'humain, hein, l'humain, c'est quoi l'humain? On avait dit que l'humain, c'était Médaber, celui qui parle. C'est quoi la qualité de celui qui parle? C'est qu'il a la force d'analyse. Et que l'homme qui a cette force-là. La vraie analyse. Et la force de l'analyse, c'est quoi? C'est l'analyse de notre éloignement à Kadosh Baruch Hu, ça va générer une kavana globale qui va animer toutes les mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué? Avec ça, on va arriver aux quatre mondes. On a dit comme ça. Donc, ça veut dire que, ce qu'on a compris ici, c'est que quand on voit dans le monde ici, minéral, végétal, animal et humain, en vérité, c'est ces quatre niveaux qui font partie d'un tout. Et plus on va, et plus on descend. Si je commence de l'humain, l'animal, le végétal et le minéral, donc tous font partie d'Akadosh Baruch Hu, mais plus on va, et plus on va vers le matériel. Vous avez remarqué? L'humain, c'était l'analyse, l'animal, c'était on sent, le végétal, c'est les mitzvot spirituels, et le minéral, c'est les mitzvot matériels, c'est le bas, le plus bas possible. Minéral, végétal, animal, humain. Très bien. Et donc, on avait dit qu'on avait séparé en deux groupes, donc je suis toujours dans le même carré là, on avait séparé en deux groupes, il y avait minéral, végétal et animal et humain. D'accord? Minéral, végétal, c'est les mitzvot, que je fais sans kavana, mitzvah, le fait de faire la mitzvah, et animal et humain, c'est la kavana que je mets dans la mitzvah. Mais là, c'est très important. On arrive au point en dessous qui est les quatre mondes, pour montrer comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, a créé le voile en quatre temps. Quatre mondes qui forment en vérité uniquement des dimensions. Le monde, c'est des dimensions. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces dimensions? C'est quatre dimensions, comment le spirituel devient matériel, en quatre temps toujours. Pareil, les mêmes quatre temps. Là, je vais commencer par le plus haut, c'est de l'autre sens. Atzilut. C'est quoi Atzilut, le niveau le plus haut? Ça, c'est les grands tzadikim, c'est de être l'outil d'Akadosh Baruch Hu. Merkava, Adam Uvema Toshia Hashem. D'accord? Être l'outil d'Akadosh Baruch Hu. On a expliqué trois points sur Atzilut. Premièrement, c'est l'union ultime avec Akadosh Baruch Hu. Donc le matériel n'a plus de place. C'est de l'union
écoute.
Ultime.
De l'écoute.
D'accord? Si tu veux. Deuxièmement. Deuxième élément qu'on a expliqué sur Atzilut, c'est que Atzilut, c'est le niveau constant des Neshamot des grands tzadikim. D'accord?
Ils
sont constamment à ce niveau-là, constamment à le monde d'Atzilut. Troisièmement, on a expliqué, chaque juif, d'accord, dans des moments propices, par exemple l'Amida, il peut atteindre ce niveau-là aussi. Donc ça, c'est Atzilut. C'est-à-dire, ça, c'est Atzilut, c'est le niveau dans lequel le juif, il est tellement fort qu'il y a only spirituel. Il n'y a que du spirituel, il n'y a pas de matériel. Certains moments, on peut ressentir ça. à l'Amida, à la Neila. Il y a des moments propices que même celui qui n'a pas une Neshama d'Atzilut, il peut arriver à ça. Comme l'Amida.
L'Amida, c'est encore plus haut, Neila,
on a dit. Oui. Mais même l'Amida, on a dit. Même l'Amida, on peut, si on veut, on peut. On a la possibilité. Ensuite, on a le niveau d'en dessous, Bria. Comment on peut définir Bria en trois mots? Le plaisir intellectuel. Alors, ça, on a expliqué que c'est le Gan Eden. On a dit, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim au Gan Eden? Yoshvim, Venenim, Mizivashrina. Donc, Bria, ça correspond au plaisir intellectuel. Donc là, c'est déjà plus être l'outil d'Akadosh Baruch Hu. Je suis pas un outil, j'ai un plaisir. J'ai un plaisir.
Spectateur.
D'accord? Mais, spectateur, on arrivera tout de suite après, c'est à la fin. Donc, Bria, c'est le plaisir intellectuel. Donc, c'est le Gan Eden. Deuxième chose qu'on a dit, c'est que c'est le niveau constant des Neshamot, des tzadikim, pas des grands tzadikim, c'est leur niveau constant, ils sont constamment à ce niveau-là. Troisièmement, on a expliqué que chaque juif servant Dieu avec son analyse intellectuelle. C'est-à-dire, j'ai une analyse, la même chose que j'expliquais avant, analyse intellectuelle. J'analyse intellectuellement que je dois m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et après, j'arrive à une conclusion, la kavana. J'arrive à une conclusion, c'est pas simplement un sentiment, j'analyse quelque chose, c'est-à-dire ça fait partie de moi. Quand on a réfléchi à quelque chose, ça fait partie de moi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si j'ai réussi à m'intégrer, si j'ai réussi à réfléchir à la chose et à analyser de manière à ce que ça fasse partie de moi, et ben à ce moment-là, je peux dire que je suis dans le monde de Bria. Je peux dire que ma mitzvah est faite dans le monde de Bria. La même mitzvah que je fais, elle prend une dimension de Bria. C'est pas des mondes physiques, c'est une dimension de Bria. Quatrième chose qu'on a dit, chaque juif, dans des moments propices, par exemple Shabbat. Le Shabbat, on dit tu fais rien Shabbat, juste tu manges, c'est comme si tu étais dans le monde de Bria. C'est comme ça. Très bien. Ensuite on a le monde en dessous, c'est le monde de Yetzirah.
La nuance avec Atzilut, c'est vraiment qu'il n'y a pas de réflexion. Donc,
Atzilut, il devient un outil d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de réflexion. Mais dans le bon côté, il n'y a pas de réflexion.
On a transcendé la réflexion.
On est plus fort que la réflexion.
On l'a transcendé.
Yetira, c'est quoi Yetira? C'est pas le plaisir intellectuel. On a dit Yetira, c'est l'éveil de la soif. Donc c'est déjà un sentiment. C'est le niveau des anges. Le niveau des anges qui ont la soif constante vers le divin. Et deuxièmement, on a dit, chaque juif servant Dieu en éveillant ses sentiments. C'est-à-dire que quand je sers Dieu en éveillant mes sentiments, je ne réfléchis pas. Mais bon, avant de faire la mitzvah, je dis, tiens, je réfléchis au fait que je suis un juif et qu'il faut aimer Dieu, que j'ai pas envie qu'on va développer dans le chapitre 41, je ne veux pas faire une avéra parce que j'ai pas envie de faire de la peine à Dieu. Donc j'ai une certaine kavana quand même. J'ai une certaine kavana. Cette kavana-là, c'est le monde de Yetzira. C'est quoi le monde de Asiya? Le monde de Asiya, c'est terre à terre. Le matériel en toute sa puissance. Il n'y a pas de spirituel. Only matériel. On voit pas le spirituel, il est pas là. D'accord. Deuxièmement, ça correspond bien entendu au service divin qui est fait sans kavana. Alors, nada.
On avait décliné deux choses, eh bien, soit par habitude, soit.
Ça c'est la colonne d'après. Ça c'est la colonne d'après.
Ça c'est regarder à côté et faire comme si que tu.
Non. La mitzvah, c'est pas faire
une mitzvah,
c'est pas plutôt.
Juste, attends, excuse-moi, D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué dans la colonne de gauche? On a expliqué le concept de la kavana et des mondes. Quand on a expliqué que de la même manière qu'il y avait quatre mondes. D'accord.
On va pas s'éloigner.
Non mais c'est parce qu'il est déjà tard.
Ah oui, ça c'est vrai.
On avait expliqué comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a expliqué dans cette colonne de gauche? C'était assez fin, ce qu'on a expliqué. On a expliqué qu'en vérité, le monde entier est créé dans ce concept de voile, qui est créé en quatre temps. Minéral, végétal, animal, humain. Atzilut, Bria, Yetira, Asiya. Et pareil, on avait dit aussi, dans ce même concept du voile qui est créé en quatre temps, on a parlé des mitzvot. J'ai mitzvah spirituelle ou mitzvah matérielle, donc ça rentre dans les mitzvot qui sont matériels, qui sont en bas. Et après, ensuite, quand j'ai la kavana, ressenti ou analysé, peu importe, plus je monte, plus j'ai de la kavana, et moins j'ai de voile. Le concept est là. Le concept est passer de 0 voile à 1. De 0 à 1. Donc il y a 0, 0,25, 0,50, 0,75 et 1. D'accord? Et c'est ça, c'est un développement. Donc pareil. Quand j'ai 0 kavana, ben, je suis à 0. Quand je fais une mitzvah qui est spirituelle, je suis à 0,25. Quand je fais une mitzvah avec une kavana ressentie, c'est que les sentiments, je suis à 0,75. Quand je fais une mitzvah avec la kavana big time, avec la kavana analysée, là je suis à 1. D'accord? Très bien. Maintenant on passe à 39,40.
Tu seras combien alors avec la première kavana?
Avec quoi?
Tu seras combien?
Avec la première kavana, je suis à Yetzira.
Ah mais Stilo, tu seras combien?
Avec quoi?
Atzilut.
100%.
1?
Non, c'était la 1 là.
D'accord. Oui, mais là c'est plus que 1. Là c'est, j'ai dépassé le 1. La seule différence, comme Yves il a posé la question tout à l'heure, la seule différence qu'il y a entre le 1, entre Atzilut et Bria, c'est le fait que dans Bria, il y a toujours un plaisir intellectuel. Ouais. Et alors que dans Atzilut, je suis l'outil de Dieu. Mais sinon, au niveau de la Kavana, c'est la même chose, c'est 1. On est au niveau de 1.
Vous ne sait pas ce qu'ils ressentent rien, tu veux dire?
Ils sont arrivés à un niveau qu'ils ne cherchent pas à ressentir. On va arriver tout de suite à la fin. 39,40. 40, on connaît ces chiffres-là.
Ah, voilà.
Donc 39-40, donc ça c'est un concept qu'on a terminé dans qu'on a fait dans la fin du chapitre 39 et commencé un chapitre 40, on a expliqué le concept des ailes de l'oiseau. L'oiseau et ses ailes. Et vous allez voir que c'est le même concept qu'on a expliqué. Exactement le même concept, le voile qui est généré, que le but de la kavana c'est quoi? C'est séparer le voile. Mais là on va tout comprendre. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit qu'une mitzvah sans kavana est comparable à un oiseau sans ailes. Alors qu'est-ce que ça veut dire être sans ailes? Être sans ailes, c'est une mitzvah qui n'est pas faite lishma. D'accord? Une mitzvah qui n'est pas faite lishma. On a deux types, Yaakov, tiens voilà, là, c'est ce que tu parlais tout à l'heure. On a deux types de mitzvot qui sont faites pas lishma. Premier type de mitzvot, Yaakov, c'est quoi? C'est quand je fais mitzvot par
routine.
Routine. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe?
On ne dit pas ce qui est écrit.
Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je reste bloqué en bas. Il reste bloqué en bas, sans ailes, jusqu'à nouvel ordre. C'est quoi le nouvel ordre?
C'est quand je fais tes chouvas.
Quand je vais faire la même mitzvah,
que la même,
avec Kavana,
que le même acte soit accompli avec Kavana.
Ah, c'est un vrai chouva, voilà.
D'accord.
Faut pas l'oublier, celui-là.
Ensuite,
dans le 39-40.
Deuxième catégorie d'être sans ailes. C'est quoi la deuxième catégorie? C'est quand je fais par intérêt. Et là, à ce moment-là, l'oiseau,
c'est la glou.
Il reste attaché au sol,
glu, ouais.
Jusqu'à qu'une teshuva soit faite.
Il y a marqué glou?
Soit faite.
Il y a marqué soit faite.
Jusqu'à qu'une teshuva soit faite. Pourquoi je marque soit faite? Parce que ça peut être fait par moi, ça peut être fait par un guilgou.
Ah oui.
D'accord.
C'est quand même important, Même si ça a été fait sans Kavana, t'as dit que c'était quand même important.
Bien sûr.
Quand tu avais dit le mec qui mettait les tépilines sans aucune...
T'as raison.
Celui qui étudiait sans tépilines.
T'as raison.
Celui qui mettait, c'était plus important.
C'est bon. T'as raison.
C'est bon.
Tu as fait la mitzvah, mais ça change pas que la mitzvah elle restait bloquée en bas.
T'as fait un oiseau sans aile.
T'as fait un oiseau sans aile.
Alors. Celui qui a fait que l'étudier, il est...
Non, on n'a pas fini.
Il a fait des ailes sans oiseau.
Je finis le concept. Tzimtzoum et Elem.
Non, non, tu argotes.
Toujours dans le même sens. Toujours dans la même direction. D'accord. Tzimtzoum et Elem. Toujours avec les ailes de l'oiseau. C'est quoi Tzimtzoum et Elem? Tzimtzoum et Elem, d'accord, c'est contraction et voile.
Ah.
C'est quoi Tzimtzoum? Tzimtzoum est égal à contraction. Oui. Dieu se contracte en quantité. Les vannes se referment. Bon, on peut dire. D'accord.
Est-ce qu'on peut donner un exemple?
Elem, c'est un voile. C'est quoi un voile? Dieu se contracte en qualité. La lumière qui est déjà là, avec un apostrophe, devient floue, avec un accent, devient floue et méconnaissable. Donc, Tzimtzoum et Elem, contraction et voile. On avait donné l'exemple la semaine dernière d'un ordinateur. D'accord, vous avez un ordinateur, vous pouvez avoir un ordinateur qui tourne lentement, il tourne très lentement, mais quand il tourne, mais ce qui tourne, c'est juste. Vous avez un autre qui tourne très très vite, mais il fait des bêtises, il est fragmenté, il fait des catastrophes. D'accord, il a des virus. C'est la même chose. Un, c'est contraction, l'autre, c'est voile. Contraction, c'est de la quantité. Je peux avoir peu, mais bien. Voile, c'est quoi le voile? C'est que tu peux avoir beaucoup, mais ce que tu as, c'est pas clair, c'est flou. Malheureusement, dans un SIA, Dieu est contracté et voilé.
Okay.
C'est-à-dire non seulement qu'il y a très peu de divinité, et le peu qu'il y a est voilé.
Dans le brouillard.
Contracté, parce que le spirituel devient matériel. Donc ça devient incompatible avec le spirituel. C'est fini, c'est incompatible. Comme l'exemple que je donnais la semaine dernière, 2D, 3D. Voilé, c'est quoi voilé? Un flou artistique qui permet la création d'éléments qui apparaissent neutres, ni mitzvah, ni avera. Très important de comprendre ça. D'accord? C'est quoi le concept de... Pardon?
On ne voit pas les nuances.
Donc c'est quoi voilé? Ça veut dire que il y a des choses floues, il y a des choses neutres qui sont créées dans le monde. Alors que normalement c'est impossible.
Hamilton.
Impossible. C'est quoi notre but dans le monde? C'est dévoiler et décontracter entre guillemets la divinité.
Ah, il a raté la décontracter.
D'accord. Ouais. Dévoiler et décontracter la divinité. Comment dévoiler et décontracter la divinité? Premièrement, comment je dévoile? C'est quand je fais une mitzvah. C'est quoi le concept de voiler? Voiler, on a dit, ça veut dire que voiler, ça veut dire que on voit pas que c'est une mitzvah, on voit pas que c'est de la divinité. Quand je prends un verre de coca et je fais chacun les mitzvahs, ce verre de coca, c'est fini, c'est dévoilé, c'est devenu une mitzvah. Dévoiler, c'est déjà dévoilé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est toujours contracté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon verre de coca, il reste un verre de coca. J'ai pas eu forcément une sensation de gdoucha quand j'ai bu un verre de coca. Comme l'histoire que je racontais la semaine dernière avec la dame qui est venue pour me parler de Sefer Torah à Marrakech. Elle a pas vu que le Sefer Torah était kadosh. C'est quoi notre rôle quand on fait une mitzvah avec Kavana? Qu'est-ce qui se passe quand on fait la mitzvah avec Kavana? Non seulement on dévoile la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est clair.
Ça c'est
de facto. Quand je fais une mitzvah, j'ai dévoilé. Mais à part ça, je décontracte. Ça veut dire quoi? Je décontracte. C'est la Kavana de la mitzvah. Comme j'ai eu une Kavana dans la mitzvah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc je suis monté au monde de Yetzira et à ce monde-là, la lumière n'est plus voilée. À ce moment-là, pardon, la lumière n'est plus contractée. Je suis arrivé à un niveau dans lequel c'est beaucoup plus fort.
Donc là,
on comprend dézippé.
Ah, dézippé, c'est mieux. L'impression, on comprend pas.
Donc là, on comprend. D'accord. On comprend un peu mieux le concept. D'accord. On comprend un peu mieux le concept de Tsimtsum et Elem. D'accord. Le rôle de la Kavana. Jusqu'à présent, on a expliqué que le rôle de la Kavana, c'était quoi? Le rôle de la Kavana, on a expliqué jusqu'à présent, le rôle de la Kavana, c'était d'avoir un minimum de voile. C'est ce qu'on a expliqué dans la colonne de gauche. Là, ce qu'on rajoute encore dans ce concept, ça veut dire quoi un minimum de voile? On te dit même que si tu as fait la mise avec le voile est déjà parti, mais la force que tu as quand tu fais une mise avec Kavana, qu'est-ce que fait la Kavana? La Kavana fait que tu dézippes, que maintenant tu vas être capable de sentir cette mise. Je vous donne un exemple très simple. Je suis en train de dire Amen Yeshemé Rabba. Tout à l'heure, on ferme à Rive, imaginons qu'il y aura un minia, je vais dire Amen Yeshemé Rabba. Ce même Amen Yeshemé Rabba que je veux faire. D'accord? Si je peux le faire sans Kavana, je peux le faire avec Kavana. Ça ne changera pas pour autant que ça sera les mêmes mots. Qu'est-ce qui va changer? Le voile, il sera plus là. Parce que quand je dis Amen Yeshemé Rabba, c'est Kadosh. Qu'est-ce qui peut rester? Ce qui peut rester, c'est...
Le zip.
C'est que bon, je dis des mots, Amen Yeshemé Rabba, tout compte fait, c'est des mots. Des mots, comme j'aurais pu dire des bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un va dire Amen Yeshemé Rabba avec Kavana, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se monter au monde de Bria. Et à ce monde de Bria, à ce moment-là, on voit les choses. Ça veut dire que un juif, quand il est en bas, il a la possibilité, avec un peu de kavana, ressenti ou réfléchi, un des deux, mais c'est possible, il a la possibilité de sentir les choses. De voir comment c'est pas un simple mot, c'est un mot qui lui parle. Grâce à quoi? Ça, c'est le rôle de la kavana. Et ça, c'est l'oiseau et ses ailes. Dans l'oiseau et ses ailes, qu'est-ce qu'on a, hein? On a le corps de l'oiseau et les ailes de l'oiseau. L'action, ça correspond au corps de l'oiseau. On a expliqué que l'action est l'élément principal de la mitzvah, comme le corps de l'oiseau est son unique élément vital. L'unique élément vital de l'oiseau, c'est son corps. Quand je dis son corps, c'est sa tête, etc. C'est ça l'élément, donc la même chose. Le but de faire la mitzvah. Mais je sais pas si vous avez déjà vu un oiseau qui a les ailes coupées, et Dieu préserve, et qui essaye de voler et qui peut pas. Il y a rien de plus triste que ça. Il veut voler, il sait que normalement il pourrait voler, ses amis ils volent, et lui il reste bloqué en bas. C'est la même chose. D'accord? La kavana, c'est les ailes de l'oiseau. C'est le bonus. C'est vrai, tu as raison, on te dit si tu veux une sans kavana, fais-la sans kavana. Pas grave. Fais-la sans kavana. De toutes les façons, quand ma chère viendra, on verra que ce que tu as fait c'était bien. Mais on te dit c'est dommage. Tu restes bloqué en bas. La kavana donne de la valeur ajoutée pour les banquiers. Donne de la valeur ajoutée à la mitzvah pour la propulser en haut de la Yetzira. En haut de Yetzira pour parer au Tsimtsum. C'est ce que je viens d'expliquer. Que le problème du Tsimtsum, qui est la contraction, comment on peut parer à ce problème-là, hein? Quand on a la kavana, qu'est-ce qui se passe? Non seulement que moi je vis la chose, mais quand j'ai la kavana, ma mitzvah est montée à une dimension plus haute. Le Amen Yeshemé Rabba que je fais, il n'est plus au monde d'Asiya, il est monté à la dimension de Bria, de Yetzira. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait que je le vis. Pourquoi je le vis? Parce que à ce niveau-là, il n'y a plus de contraction. Ça veut dire qu'un juif, il suffit qu'il y mette un petit peu, il peut exploser la baraque. Bon, et là maintenant on a fini. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit la semaine dernière après le cours, d'accord? Je l'ai dit après le cours, quand on était en train de discuter. Mais j'ai pensé l'écrire parce que c'était... Parce que c'est intéressant, je pense que ça conclut bien ce qu'on a expliqué. Attends, je finis avec ça. On a dit qu'on pouvait avoir 4 oiseaux. Je vais commencer par... on va commencer... 4 oiseaux.
Liaison
dangereuse. Très bien. Alors le premier, on avait dit c'était la fusée. La fusée, c'est pas un oiseau. Pourquoi j'ai donné l'exemple de la fusée? C'est que la fusée, regardez bien, dans l'exemple, on va très très bien comprendre.
Veut voler.
La fusée veut voler.
Vole.
Totalement désintéressé. C'est-à-dire que lui, le but de la fusée, c'est de mettre. C'est quoi le but de la fusée? C'est de mettre le satellite en orbite. Maintenant, lui, il s'en fiche, il sait qu'après, une fois qu'on a mis le satellite en orbite, on va la lâcher, il va tomber, il va s'exploser. Lui, il dit, moi, je veux satellite en orbite, c'est tout ce que je veux. Ça correspond à qui? Pour revenir à ce que j'ai dit.
Sadikim Gemurim, ça.
Sadikim Gemurim, les grands Sadikim qui deviennent l'outil de Dieu. Dieu dit, bon, mais j'ai ma fusée, moi. Allez hop, il envoie Ariane. C'est qui Ariane? C'est les Sadikim, les grands Sadikim. D'accord? Ça, c'est le top. D'accord? Ensuite, et là, vous voyez avec cet exemple-là, comment en vérité le concept des quatre mondes, on l'a retrouvé dans le chapitre 38, 39, 40. L'aigle. C'est quoi l'aigle? Rappelle, c'est quoi l'aigle, David?
Je pense
que hein? C'est l'aigle, c'est comme le monde de Bria. L'aigle, il veut voler. L'aigle.
Il se rappelle du flou.
L'aigle, David.
Flou, c'est le poussin.
L'aigle, il veut voler. Et il vole.
Pas le flou.
D'accord? L'aigle, il veut voler, et il vole, mais là, il a un truc spécial. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans le monde de Bria? Bria, c'est le plaisir intellectuel. C'est quoi l'aigle? Quand il atteint sa vitesse de croisière, il prend plaisir à se laisser voler. C'est le plaisir de la cabane analysée. Ça, c'est l'aigle. Ça veut dire, c'est vrai, au début, il bosse, il faut voler. Mais une fois qu'il est en haut, c'est avec l'aigle, il se laisse voler.
Après, il profite des vents intentionnels.
D'accord? Ça, c'est Bria. Bria, c'est le plaisir intellectuel. C'est-à-dire que t'arrives à un certain moment, t'as plus la soif, t'as plus, tu bosses plus.
C'est
fluide.
Les vents.
C'est quoi le coq? On a dit, le coq, c'est quoi? Le coq, c'est Yetira. Il a la soif de voler. Il vole. Mais il retombe très vite. Il retombe. Hop, d'accord? Hop, comment on a fait, David? D'accord? Il retombe très vite. Donc ça correspond à la kavana sentimentale et assoiffée. C'est-à-dire que
Français,
ça veut dire que la kavana, ça veut dire que
c'est-à-dire que on lui dit de boire et il comprend pas qu'il faut qu'il boive et que quand il boit ça va mieux.
Exactement. C'est comme le coq. C'est-à-dire le coq, il sait voler, il vole, mais à chaque fois il tombe et chaque fois pas, puis il remonte et il revole, il remonte et chaque fois il se casse la figure.
C'est bien d'accord. Les anges, ça.
Pourquoi?
C'est bien que ça les anges.
Oui. Mais c'est ça les anges. Les anges, Sraphim, ça veut dire qu'ils brûlent constamment, c'est ça. Mais c'est pas négatif. C'est-à-dire qu'ils ont une soif constante d'aller vers la Kadosh Baruch Hu. Ils ont jamais vitesse de croisière. Comment vous avez fait comme jeu électronique Et là on arrive au poussin. Hein.
Ah le poussin, le fenou.
Les poussins. C'est quoi le poussin? Les poussins. C'est comme ma fille, elle a un petit cahier de dessin dans lequel il y a les poissons et les poussins. Les poissons, poussins. C'est quoi le poussin? Ça c'est SIA. Poussin, peut-être qu'il veut voler. Mais en tout cas, il reste toujours en bas. C'est quoi le poussin? C'est quand on fait des méthodes qui ne sont pas les chemins. Après, on a c'est quoi le rôle de la kavana? Le rôle de la kavana, c'est de passer du stade de poussin au stade de coq ou au stade de l'aigle. À Tzilout, ça on n'en parle pas, c'est pas pour nous ça. La fusée, c'est pas
la
pour
fusée,
nous. D'accord. Mais l'aigle ou le coq. Et là, vous avez vu, avec le résumé, vous avez vu comment chapitre 38, 39, 40, c'était une suite directe.
Ouais, c'est la même chose. Hein.
C'est une suite directe. Même si on a eu l'impression qu'on a parlé de 5-6 sujets différents.
Non, donc, il fallait les comprendre, c'est
sûr. D'accord. Mais c'est une suite directe. C'est la même idée, même idée. C'est les quatre mondes, c'est le voile qui se crée, c'est la même idée. Ça, c'est le concept des quatre mondes. Et avec ça, on a conclu, on a expliqué pourquoi c'était très important d'avoir et la mitzvah, et le but, c'est de faire la mitzvah. Mais le rôle de la kavana, c'est quoi? Le rôle de la kavana, c'est de pouvoir voler. Il n'y a rien de plus grave qu'un oiseau qui est là, qui veut voler, qui reste bloqué en bas, qui ne veut pas voler. Ça, c'est le rôle de la kavana. Mais même si on ne fait pas kavana, il faut toujours continuer à faire les mitzvot. Alors que espérons que Dieu, Bezrat Hashem, donne les kouchot, de faire les mitzvot avec kavana. Non, pas encore.
Non, je voulais juste dire, bon, c'est la même idée, certes, mais il faut dire quand même faire un petit dédicace qui nous a ordonnancé toutes ces idées avec un brio phénoménal. Donc,
je partage.
Ça peut s'applaudir.
Je partage. Très beau travail.